Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut Yann.
Ça va?
C'est
la bonne.
J'ai l'impression que c'est la bonne. Bon, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. On s'était vu à Lausanne.
Ouais.
Et je dois te confier un truc. C'est que tu es ma joueuse préférée du circuit.
Très touchée.
Je dis pas ça parce que tu es en face de moi. Il faut que je te raconte une petite anecdote. J'étais avec Fabrice Barraud, qui est statisticien sur le circuit. On regardait ton match, je ne me souviens plus contre qui. Et c'est sorti tout seul. Et je lui ai dit, 19 ans. Tu te rends compte? Et en fait, derrière ce 19 ans, tu te rends compte, il y avait, je me disais, la nana a déjà fait 8 fois le tour du monde, elle est top 100, et elle a, si le physique tient, j'en sais rien, 20 ans devant elle sur le circuit.
20 ans, ouais, un peu ambitieux, 20
tu
ans.
Tu vas au moins aller jusqu'à 45 ans. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, j'adore son jeu et je trouvais ça incroyable. Enfin, je me disais, cette nana a une vie incroyable. Est-ce que je me trompe déjà? Je vais peut-être te laisser parler un peu.
Non, bah sur la vie, t'as complètement raison. Je pense qu'il y en a très peu de notre âge qui ont déjà fait tout ce que nous, on a pu faire grâce à ce sport-là. C'est vrai que j'ai visité un nombre de pays déjà assez fous à mon âge. Et c'est pas fini parce que bon, là, je suis censée encore continuer un petit peu, mais c'est vrai qu'on a un rythme de vie très différent des personnes lambda, mais qui moi me convient parce que j'adore ça, j'adore voyager, visiter plein d'endroits et puis en même temps vivre de mon sport. Donc extrêmement chanceuse. Ouais.
Après, on sait aussi qu'il y a des périodes très compliquées, que tu es loin de tes potes, loin de ta famille. Quand on gagne moins, on a peut-être moins envie d'aller se taper le Colisée à Rome. Est-ce que tu es du genre à parfois subir les voyages et à manquer tes potes, ou tu arrives à trouver un bel équilibre sur le circuit? Tu te positionnes comment?
Non, c'est vrai que c'est jamais stable tout au long de l'année. Il y a toujours des hauts, des bas, des périodes où on joue très bien et tout s'enchaîne bien et puis voilà, tout se passe bien, et d'autres où forcément on est un peu plus dans le dur, et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est encore plus dur de partir loin de chez soi. Après, moi, je suis, c'est comme je l'ai toujours dit, je suis très heureuse de partir et très heureuse de revenir aussi.
Okay.
J'ai été habituée à avoir ce style de vie-là depuis quelques années, donc je m'y suis fait, et en même temps, j'aime ça, je le subis pas, donc ça permet à mon avis de mieux le vivre quand il y a des moments un peu plus durs. Mais c'est vrai que oui, il y a des moments où on aimerait peut-être à ce moment-là être chez soi et aller sortir avec ses potes plutôt que voilà, d'être dans un endroit un petit peu pourri où tout va
exemple.
Pas pour le mieux. Pays de l'Est, parfois, c'est pas ça.
Ça veut dire.
Ouais, bah après, plus on monte en niveau, plus les tournois sont beaux, bien organisés, et ouais. On est dans de très bonnes conditions, donc c'est un peu moins le cas. Mais c'est vrai que bah justement, quand on joue un peu moins bien, qu'on doit redescendre un peu en niveau et en catégorie de tournoi, bah, on revient un peu à la réalité de temps en temps, et c'est vrai que les conditions sont pas les mêmes, donc faut savoir être prendre sur soi, et en tout cas de donner le max sur ce tournoi, quoi.
T'as signé quand avec ASICS?
J'ai signé, ça doit faire, je pense, 6-7 ans.
D'accord.
C'est le premier contrat textile que j'ai signé.
Donc t'avais quoi, 15?
Je pense que j'avais 13 ou 14 ans.
Ah ouais, bien avant, ouais.
Ouais, bah même plus en fait, ouais, je te dis ça. Ouais, non, c'est ça, 6-7 ans à mon avis. C'était quand
là, j'ai fait... Là, tu vas avoir 21
mon... Ouais.
Ok.
C'était quand j'ai fait mon premier Roland en junior,
ouais.
En qualif. J'avais d'ailleurs joué Gracheva au premier tour.
Ouais.
Et je me souviens que j'avais reçu mes affaires une heure avant de jouer, que j'avais fait l'aller-retour chez moi pour justement aller les récupérer et les mettre pour le match. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec eux.
T'habites où toi?
À Boulogne.
Ok, ouais, t'es beaucoup quasiment sur place.
Ouais.
Là, donc, on est à la maison ASICS, à littéralement 35 secondes du stade. T'as été numéro 1 mondial junior. Est-ce que tu as toujours été dans le top du top, du haut du panier, ou c'est arrivé progressivement?
Non, je dirais pas tout de suite au top du top. J'ai toujours, je dirais, une progression un peu à mon rythme, un peu continue, mais j'ai jamais très tôt fait des très gros résultats.
Ouais.
J'ai pas voulu me mettre d'objectif en particulier, mais vraiment d'avancer à mon rythme. Et c'est vrai que moi, je dirais que j'ai plutôt une progression constante en junior. Je suis arrivée dans le haut du panier peut-être vers 16-17 ans.
Et t'as commencé à quel âge?
Je sais pas, peut-être 13-14, je sais pas. C'est peut-être là, à ce moment-là, qu'on fait les premiers juniors, mais...
Non, mais le tennis.
Ah, le tennis,
ouais.
À 5 ans.
Ok.
Ouais.
Ouais, donc t'as eu une progression lente, mais...
Ouais,
voilà.
Après, c'est sûr que je pense qu'il faut pas se comparer dans ce sport-là parce que chacun a une carrière et une progression différente. On peut regarder Goff ou d'autres filles comme ça qui, très très jeunes, sont déjà au plus haut niveau. Mais je pense que, ouais, faut plutôt suivre son rythme et ça arrivera quand ça arrivera, quoi.
Yes. Ton revers à une main, Diane.
Oui.
C'est un sujet dont personne ne te parle. Donc, je vais t'en parler. Est-ce que d'emblée, tu t'es dit, tiens, c'est joli, j'ai envie d'aller comme ça? Ou ça s'est passé comment? Raconte-nous.
J'ai du mal à me souvenir quand j'ai vraiment commencé, parce que j'étais petite, mais de ce que ma mère m'a raconté, quand j'ai vraiment commencé au tout début, je crois que j'avais commencé à une main.
Ok.
Et petit à petit, quand j'ai commencé à vraiment prendre des cours, à avoir des entraînements et puis à aller à la ligue, etc., on m'a fait passer à deux mains parce qu'à cet âge-là, on est petite, on n'a pas beaucoup de force.
Donc, tu as eu un passage à deux mains, ouais.
On n'a pas du tout un physique développé, donc on m'a fait passer à deux mains. Enfin, ouais. En tout cas, j'ai jusqu'à ce que je change à une main, j'ai toujours joué à deux mains, en fait.
D'accord.
J'ai toujours aimé, j'ai toujours pris plaisir à en faire comme ça pour rigoler. Mon idole, ça a toujours été Federer et je trouve ça magnifique comme geste.
Ouais.
Et à un moment donné, à la Ligue, mon entraîneur à l'époque, qui elle avait un revers à une main, m'a proposé pendant les vacances, donc je faisais des tournois un peu là où j'allais en vacances dans le sud, de m'a proposé de passer à une main, enfin en tout cas pour ces tournois-là, pour voir ce que ça pouvait donner, de
et là,
m'amuser,
tu
de le faire.
Tu t'es dit quoi, trop cool?
Bah trop cool, moi j'étais excitée de faire ça, de commencer.
T'avais quel âge juste?
J'avais 13 ans.
Et t'étais 13, à combien?
13, 14, 13 ans. Aucune idée.
Merci.
Alors, ça, non mais par contre je peux pas du tout.
Sympa la précision.
Les
du
classements, soir. L'âge, etc. Je suis complètement nulle, ça faut demander à ma mère.
Ok.
Mais ça a
Madame
pas
Paris,
été.
En commentaire, n'hésitez
voilà.
pas.
non, ça n'a pas été facile parce que bien évidemment j'avais pas du tout le physique que j'ai maintenant, donc pas vraiment encore de muscles très développés au niveau du bras, etc. pour tenir. Donc c'est vrai que je me souviens qu'on me jouait que là-dessus et des balles hautes un peu pourries. Mais même si c'était un petit peu galère à ce moment-là, j'ai voulu continuer comme ça.
Ouais.
Parce que j'aimais ça et que je prenais beaucoup de plaisir à en faire.
Ouais.
Et du coup, après, j'ai jamais quitté.
Incroyable.
Ouais.
T'avais réussi à broder un peu sur cette tournée ou ça avait été vraiment compliqué?
Non, je m'étais débrouillée, mais après, c'était des tournois aussi où tu sais, tu jouais contre des plus vieilles. Enfin, c'était pas qu'une catégorie, c'était des tournois adultes, etc. Donc, tu pouvais jouer contre une nana de 45 ans comme une nana de 20 ans et puis elles ont l'expérience par rapport à toi quand t'as cet âge là et puis elles te bidouillent, elles te font des trucs un peu pourris, mais non, ça m'avait amusé.
Trop bien. T'as donc été numéro 1 mondial junior, est-ce que tu... Et puis ensuite, je crois que t'as traversé très vite la seconde division entre guillemets du tennis. Est-ce que tu te souviens, sans forcément avoir les âges, de ta progression au classement français, de non classé à au moins numéro, mais tu vois, ça
répète. Alors je crois, dans mon souvenir, mais je peux dire des bêtises, mais je crois que j'ai fait non classé 32,
ouais.
32-30, 30-15-2,
ouais.
Je crois, je sais pas si j'ai fait 15-2-15 ou 15-2-4-6.
Ça, il y a une différence.
Je me souviens plus.
Peut-être une inter.
Mais j'ai fait 4-6,
ouais.
4-6, 2-6. Et après, je crois qu'à 2,6, j'ai fait moins 4 et après numéroté, je
Allez,
crois.
2-6, moins 4, elle est costaud.
Ouais, après, je me souviens plus trop. Et à l'époque, je pense que le comptage des points, etc., c'était aussi différent, mais c'est à peu près ma
2-6, t'étais à
progression.
une main déjà.
De
19 ans, tu te
6,
rends
non.
compte?
Non, peut-être quand je suis passée en négate, mais je suis pas totalement sûre de ce que je vais te dire.
Ok. Et donc après, tu confirmes ou pas le fait que tu aies traversé le circuit secondaire, entre guillemets, mais enfin comme une fusée, quoi.
Je sais pas à combien de temps t'estimes le fait de traverser rapidement, mais
Combien de temps ça t'a pris?
je sais plus. Dans mon souvenir, j'ai Saguenay un petit peu vers les 300 et quelques
Ok.
à un moment donné où j'avais un peu de mal, mais en fait je pense que c'est comme même maintenant aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments où on peut stagner un classement et avoir du mal à passer le cap, et puis d'un coup il y a un tournoi, un truc, un résultat qui débloque un peu le truc et on monte d'un coup très vite alors que pendant des mois on était resté à peu près au même classement. Donc je me souviens qu'après après cette période-là où j'avais été 300 et quelques, c'était monté plus rapidement. Et là, j'avais enchaîné, puis après, j'étais passé dans le top 200, etc. Mais je me souviens qu'au tout début, il y avait une petite période quand même où j'avais peut-être un petit peu stagné, je dirais.
D'accord. Et deuxième palier où tu as stagné, c'est quoi? Après les 300.
Je dirais peut-être en dessous des 200, vers les 190.
D'accord.
Et après c'est pareil, je suis montée. En fait, c'est comme tout, c'est quand on est sur une bonne lancée, une bonne période, on enchaîne les bons résultats sur plusieurs tournois et en fait ça te fait prendre beaucoup de place d'un coup. Et après il y a des périodes dans l'année où t'en as moins et puis t'as des points à défendre ou autre et puis tu redescends un petit. Enfin c'est toujours, c'est constamment, tu montes, tu descends, ou enfin c'est, il y a toujours des petits hauts et bas en fait, je dirais.
Tu sens que tu as encore beaucoup de marge?
De marge de progression, ouais, je pense j'ai encore pour moi beaucoup de trucs à améliorer pour arriver vraiment au plus haut niveau. Et puis on voit encore qu'il y a quand même une grosse différence de niveau dans les 20-10 premières mondiales.
Ouais.
Ouais, j'ai encore beaucoup de trucs à travailler.
Tu penses que c'est où les axes principaux où tu dois vraiment te renforcer?
Je pense que physiquement, aujourd'hui, je trouve que toutes les filles, physiquement, c'est monstrueux. Ça a progressé énormément en termes de constance déjà pour enchaîner les matchs, les tournois et puis dans des grosses batailles parfois à chaque fois.
Ouais.
Puis ouais, aussi la vitesse de déplacement, de réaction. Et puis après, bien évidemment, la constance dans mon jeu aussi. Je pense que dans tous les cas, on essaye en permanence de faire évoluer chacun de ses coups et pour faire évoluer son jeu. Je pense que c'est faut progresser un petit peu partout à chaque fois. Après, il y a des périodes où on sent qu'on a vraiment besoin de travailler quelque chose en particulier et d'autres où c'est justement autre chose. Mais ouais, il y a encore beaucoup de trucs.
Est-ce que tu as senti, quand tu as atteint la première place mondiale en junior, un intérêt particulier pour toi, subitement? Tiens, les marques me font des propositions, j'ai de la notoriété que je n'avais pas avant, est-ce qu'il y a eu un avant-après?
Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que ça donne beaucoup de visibilité. Le circuit junior, je trouve, c'est un beau circuit à faire avant d'arriver chez les pros, parce qu'on découvre les grands chelems, on découvre aussi un petit peu le circuit et comment ça se passe. Donc, je trouve que c'est top à faire.
Je veux pas dire de bêtises, mais tes meilleurs résultats en Grand Chelem chez Junior, comme je disais, pardon. Et c'était.
Wimbledon demi-finale.
Ok.
Mais j'ai jamais été très très bonne en grand chelem
Junior.
junior, ouais.
Ouais.
Mais forcément, oui, quand tu finis numéro une, ben voilà, c'est sur les réseaux, on voit un peu plus. Et puis c'est sûr que on commence à te connaître un petit peu plus, alors que bon, en junior, c'est vrai qu'on connaît pas trop trop les filles. Donc ouais, bien sûr, mais c'est comme aujourd'hui, dès qu'on fait un résultat, c'est tellement médiatisé que forcément, il y a plus d'intérêt, ouais.
Yes. Donc, tu vas avoir 21 ans. Ça
Ouais.
fait déjà 2-3 ans que tu es sur le circuit. Tu as signé avec une très belle marque. Raquette, j'imagine que tu as aussi un beau contrat. Comment tu fais pour gérer cette vie où, je sais pas si ton sponsor laissera tout ça, mais tu dois très très bien gagner ta vie, très jeune. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu vis avec ça en fait?
Question. Bah, je pense que on gagne très très bien notre vie, mais on a aussi énormément de dépenses.
Ouais.
C'est sûr, comparé à des gens normaux, c'est vrai que ce qu'on gagne, c'est assez fou. Mais c'est vrai qu'on doit aussi beaucoup dépenser pour notre carrière avec les coachs, les voyages, etc. Donc en fait, c'est vachement un investissement en fait sur notre carrière et essayer de justement mettre le plus de chances possible de notre côté en s'entourant bien. En étant dans de bonnes conditions et je pense que c'est bien pour bien évidemment ensuite bien performer et encore mieux gagner sa vie mais on évolue un peu avec ça donc on gère ça et puis on a aussi notre entourage qui est là pour nous
T'as
aider.
gardé les pieds sur terre?
Ouais.
T'as pris la pastèque à un moment donné ou pas? Est-ce que t'as eu un peu le melon?
C'est pas du tout dans mon comportement,
Ok.
dans mon état d'esprit, donc j'espère ne jamais l'avoir un jour,
Ok.
vraiment. Mais non, non, j'essaie vachement de rester simple et puis c'est comme ça que je suis, donc je vais pas me changer parce que voilà, à un moment donné j'aurai de bons résultats. Je veux vraiment rester la même personne sur le circuit et en dehors dans la vie normale et pas faire de différence.
Et tu dis qu'il y a beaucoup de dépenses et que une structure coûte très cher, mais elle a fait des TED encore
Ouais,
sur
bien
tout
sûr,
ce qui est
bien sûr.
coaching, voyage, tout ça.
Ben, il m'aide un peu sur le coaching, ouais. Après,
Ouais.
c'est moi qui dois payer toutes mes dépenses personnelles.
D'accord.
Donc, ça fait quand même aussi un certain budget. Mais bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir la fédération qui m'a aidé depuis jeune. Et ça fait une énorme différence parce que c'est vrai que il faut quand même de l'argent pour faire ce sport et ça coûte beaucoup. Donc d'avoir une aide comme ça aide bien évidemment à progresser puis sereinement, à pas trop se prendre la tête là-dessus.
Du coup, à l'époque, quand tu avais 13 ans, c'est tes parents qui t'ont aidé à signer le contrat avec ASICS? Comment on gère quand on est aussi jeune?
Et bah à 13 ans, je crois que j'avais déjà mon agent avec lequel je suis encore,
C'est qui?
Hugo Colombini,
De quel.
italien.
Ok, c'est un indépendant qui
Ouais,
a.
ouais, ouais.
Ok.
Je me souviens, il m'avait vu, j'avais fait les championnats d'Europe individuels.
C'était où?
C'était en République tchèque.
Et il a eu le même coup de cœur que moi, il s'est dit, elle, il faut que je la signe.
je sais plus quel âge j'avais, peut-être 12 ans, je dirais
Ok.
12 ans. Et c'est vrai que bah, à cet âge-là, on démarre sur le circuit, il n'y a pas d'argent en jeu, etc. Donc on se demande peut-être l'intérêt de prendre un agent à cet âge-là. Mais après, il faut, je pense, plutôt voir sur long terme et pour le futur. Et donc je crois que c'était avec lui que j'avais signé mon contrat avec ASICS.
Et pareil, j'imagine que c'est tes parents aussi, c'est une
Oui,
réflexion commune de famille, tout ça,
bien
quoi.
sûr. Ben, on est encore très très jeune à cet âge-là, donc
Ouais.
les parents sont vachement importants là-dedans. Ouais.
Ouais. Du coup, ASICS, comment ça se passe? Je vois que tu as plutôt des belles chaussures, une tenue sympa pour Roland.
J'adore la collection de Roland.
Ah bah, bizarrement.
J'ai.
Est-ce que tu nous dirais l'inverse aussi, Diane? Je ne suis
Non,
pas
non, mais
sûr.
c'est vrai que je l'ai vu il y a quelques mois quand j'ai fait un shooting avec ASICS et j'ai vraiment adoré la collection et
Ok.
je l'ai d'ailleurs dit autour de moi et j'avais hâte justement de la porter ici. Je pense que c'est toujours bien de se sentir bien dans la tenue qu'on porte et à l'aise. Ça enlève voilà, quelque chose dans son esprit. On est libre en tout cas de jouer au tennis.
Ouais.
C'est que parfois quand on n'aime pas trop une tenue ou on ne se sent pas trop à l'aise dedans, ça peut un peu nous prendre la tête, et là, en l'occurrence, en tout cas, j'ai hâte de la porter pour Roland.
Est-ce que tu as un peu ton mot à dire si justement ça te plaît pas, les couleurs, les matières et tout, ou tu te fais squeezer complet?
Non, mais après, eux, ils travaillent sur leur collection entre eux, donc nous, on les découvre quand elle est déjà faite et terminée. Après, je pense qu'ils sont vachement ouverts à tous nos retours, et c'est important pour eux aussi, pour évoluer, bien évidemment, pour les prochaines collections. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont mis à faire des shorts, et c'est vrai que, à mon plus grand bonheur,
Ah ouais? T'es pas du
ouais,
tout team
je suis
jupe?
pas du tout team jupe.
Ok.
Et maintenant qu'ils ont mis des shorts dans les collections, bah, c'est voilà, c'est pareil, c'est une évolution. Et j'en suis très contente.
Et t'as du lifestyle aussi que tu peux porter en dehors du cours?
Ouais, bien sûr. Ouais, ils ont des. Et puis, on voit vraiment l'évolution. C'est vrai que moi, du coup, je les ai depuis très longtemps et j'ai vachement vu l'évolution dans les matières, les collections, les coupes. Et j'adore, ouais, j'adore les porter. Même en ville, les chaussures, elles sont top aussi. Donc c'est top.
J'avoue que je suis plutôt confo là.
Bah,
Pour ceux qui n'auront que l'audio, je
moi
vous invite à aller
aussi.
sur YouTube. Ok, trop cool. Et tu te sens plutôt belle gosse quand t'es en tenue lifestyle de ville en dehors du cours ou...
Ouais, bah après c'est plus les chaussures que je porte en dehors du cours. Après j'ai pas trop
De salle de ville.
De salle de ville, mais en tout cas, les chaussures, je les trouve trop bien. Il y en a des plus ou moins décontractées, d'autres qui peuvent être un peu plus habillées, donc c'est cool d'avoir plusieurs types de chaussures à mettre.
Et on sait que les outils de travail principaux d'un joueur de tennis, c'est la raquette et la chaussure.
Ouais.
Est-ce que tu as un moule du coup spécial pour ton pied?
Non, non, mais ça fait depuis que j'ai signé avec eux, j'ai toujours choisi ce modèle-là. Ils en ont trois, je crois, en modèle de tennis.
Ok. C'est lequel ce modèle?
C'est le Solution Speed.
D'accord.
Et
Spécial pied comment?
je
Fin.
dirais fin. Ouais, non, c'est vrai, fin, léger. Après, il y a les résolutions et je pense qu'on est un peu plus. Elles sont peut-être un peu plus rigides, mais du coup, très bien pour des personnes peut-être un peu plus massives ou qui aiment bien être bien maintenues.
Ouais, les gros pieds, on peut le dire.
Non, pas forcément. Mais
Pour
en
tous
tout
les
cas,
gros
moi,
pieds qui
celles-là,
nous écoutent.
non, elles m'ont tout de suite convenu. Et c'est vrai que j'ai jamais changé de modèle. Je les aime beaucoup. Et puis, elles sont vachement légères et souples. Donc, c'est top pour jouer.
Trop bien. Running aussi.
Ouais, ben running, ils ont un nombre de modèles fous. Et c'est vrai qu'il y en a où je me sens plus ou moins bien pour courir, d'autres pour la gym, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai plein de modèles différents. Et c'est trop cool et on voit vachement aussi les différences et pour quelles ouais, sont mieux quoi pour la gym, pour le footing, etc. Donc c'est cool de voir tout ça.
Je voyage pas mal sur le circuit féminin pour une agence et je croise très souvent Paul Quétin, ton préparateur
Ok.
physique, à qui je demande toujours, alors, comment va Diane? Est-ce que tu es du genre à poncer un peu tes running ou la salle, tu as du mal à tout donner?
Non, non, la salle, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'avant, j'avais un peu de mal avec le footing,
Ouais.
mais on est obligé d'en faire et de s'y mettre. Donc, j'ai commencé petit à petit à apprécier un peu plus à en faire. Et il y a des périodes où je cours pas mal.
D'accord.
Mais après, tout ce qui est salle, moi, j'aime beaucoup. J'ai jamais été à reculons, on va dire. Donc, non, c'est plutôt cool.
Tu te sens chaud pour Roland là?
Très.
Allez, là, t'es affûté.
Ouais, j'essaye. Bah là, il me reste encore un peu de temps pour s'entraîner et encore tout régler. Mais en tout cas, j'adore les conditions ici et puis d'être à la maison, on sent qu'on est bien, quoi.
Puis tu viens de gagner à Paris, au trophée Clarins.
Ouais.
C'est bien ça? Je crois que ça faisait quelques mois, c'était un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour te remettre à l'endroit là?
Bah ça se fait pas d'un coup, c'est vrai que ouais, il y a eu une période un peu compliquée où je m'étais plutôt bien préparée sur terre et je pensais que j'allais plutôt pas mal jouer.
Ouais.
Ce qui ne s'est pas du tout passé.
Ok.
Mais petit à petit, j'ai essayé de retrouver mon niveau, de m'accrocher sur les matchs où j'étais pas forcément bien. Alors, il n'y avait pas la victoire au bout, mais je sentais que petit à petit, ça commençait à revenir. Et puis à Paris, c'est aussi à la maison, il y a sa famille, on est soutenu. Et puis, j'aime beaucoup les conditions là-bas aussi. Donc, je pense que c'est un tout. Mais je sentais que petit à petit mon tennis revenait et que voilà, il fallait un match ou deux pour que ça puisse tourner en ma faveur. Et ça s'est plutôt bien mis en place toute la semaine, donc c'est cool et ça tombe au bon moment, on va dire.
Deux dernières questions. L'année dernière, tu bats. Comment elle s'appelle? Aide-moi, à Paris.
Krejcikova.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Qui était tenante du titre.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ça t'a un petit peu propulsé quand même médiatiquement, non?
Ouais, mais je pense que déjà Roland-Garros, d'être française, dès qu'on fait un résultat ou qu'on gagne un match, bon là, tout était décuplé. Je joue contre la tenante du titre sur le central pour la première fois et en plus, le stade s'était rempli à la fin. Donc, c'était un ensemble de choses et forcément, tout était présent pour que, bien évidemment, ça soit médiatisé. Mais oui, forcément, on l'est plus que si on fait un résultat
T'avais le
à
bras
l'autre
qui
bout du
tremblait
monde.
un peu avant de rentrer sur le central? Ou même sur les premières balles d'échauffement?
J'avais pas le bras qui tremblait, mais j'avais une sorte de tension, d'excitation, on va dire, avant de rentrer sur le court. Et puis quand il y a le speaker aussi qui commence à annoncer les noms, les prénoms. Et qu'il y a le public aussi qu'on sent chaud derrière. Ouais, ça met une petite excitation, je dirais.
T'as regardé Paul Quétin en lui disant, je sens que je suis tendu là,
Non, mais
là-bas.
déjà, j'ai eu du mal à les trouver parce que je pensais qu'ils étaient beaucoup plus bas, enfin, près du court.
Ouais.
Et en fait, ils étaient vachement éloignés. Mais non, non, après, on se met petit à petit dedans et on profite du moment.
Allez. Est-ce que tu vises la première place mondiale ou rien? Ou c'est pas ton état d'esprit? Toi, t'es plus, moi, je me laisse progresser et je verrai.
J'ai beaucoup de mal à mettre des objectifs de classement.
Ouais.
J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Mais même en fait de me projeter, je sais qu'il se passe, il peut se passer tellement de choses que je préfère vachement faire petit à petit en fait, au fur et à mesure. Et bien évidemment, l'objectif un jour, ce serait d'être numéro une, mais ça va avec le fait d'avoir des résultats à ce moment-là et de peut-être gagner un grand chelem. Mais ça, on verra plus tard. En tout cas, j'essaye de continuer à progresser à mon rythme. Et si un jour j'y arrive, j'en serai la plus heureuse.
Et t'es plus première place mondiale ou gagner un grand chelem?
Gagner un grand chelem.
Ah ouais?
Ouais.
Plus
Ben, en
powerful.
général, non, mais en général, ça va avec. C'est rare qu'en gagnant un grand chelem, on soit pas numéro une mondiale, mais non, je dirais quand même gagner un grand chelem.
Ok. Le slice, je crois que tu gères pas mal, slice volé. Est-ce que c'est un truc que tu kiffes particulièrement, rendre folle tes adversaires en leur chipant à la tronche ou... Comment ça se passe?
Ouais, de plus en plus, j'apprends à essayer d'emmerder un petit peu les filles avec mes coups. Et c'est vrai que justement la semaine dernière, le slice a très bien marché.
Ah ouais?
Ouais.
C'est bon ça.
Non, non, ça me fait rire. Et puis j'aime bien ce coup-là aussi. Donc j'essaie de bien évidemment le faire progresser tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un coup qui peut embêter certaines filles. Ouais.
Tu nous as parlé de Roger. Est-ce que Mauresmo et Hénin t'ont inspiré tant sur le revers à une main que sur peut-être le style de jeu?
Elles m'ont inspirée, mais je dirais plus tard, parce que c'est vrai que j'étais encore petite quand elles jouaient, donc j'étais pas forcément consciente de tout. Et puis c'est vrai que petite, je regardais pas tellement non plus le tennis, en tout cas bien moins qu'aujourd'hui. Donc en premier lieu, ça a été Roger, bien évidemment, et après, ensuite, quand bah voilà, j'ai grandi et je suis montée en niveau. J'ai commencé à beaucoup regarder des vidéos de Justine et d'Amélie, justement pour se revers à une main, et puis le jeu en général, et puis leur physique aussi. Elles étaient quand même très très physiques et un déplacement de fou. Donc c'est important, je pense, de regarder justement ces filles-là pour s'en imprégner, essayer de voir ce qu'elles faisaient de bien pour essayer d'ensuite pouvoir le reproduire ou s'en inspirer un petit peu.
L'une ou l'autre, t'as déjà conseillé un peu, parlé au détour d'un couloir, j'en sais rien, en disant tiens, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, ben Justine, j'ai eu la chance, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, pendant Roland-Garros, elle était venue sur un de mes entraînements et on avait pu parler un petit peu et Amélie aussi. Je commence à un petit peu mieux la connaître maintenant aussi, donc c'est vrai que c'est plus simple de pouvoir échanger et puis moi aussi de pouvoir poser des questions. Mais c'est vrai que maintenant qu'on se côtoie peut-être un petit peu plus, c'est vrai qu'elles sont vachement là. Si elles peuvent aider en tout cas et donner des conseils, bah ça va être les premières à le faire. Ça
Diane,
marche.
est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Il faut préciser le prénom de ton chat, de ta
Pas de chien.
voisine.
Chien, chien,
Ah,
chien.
t'as un chien, Diane!
Attention. Chien, bien évidemment.
C'est quelle race?
C'est un berger américain.
Connais pas.
C'est comme un berger australien, en
Ok.
juste un tout petit peu plus petit.
Ah, trop bien! Et alors, comment
Je suis un peu
s'appelle-t-il?
déçue de ne pas pouvoir l'amener à Roland.
Tu sais que c'est possible de l'amener à
Ouais, mais
Roland.
il est quand même assez costaud.
Ok.
Donc,
J'ai appris qu'il y avait une carte qui justifie que le chien est
mais
thérapeutique, ça
ouais,
passe. Mais il
je
faut
suis au
prouver que
courant de
tu as
ça.
besoin d'un chien thérapeutique.
J'étais limite à le faire, mais non, 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 mais il est quand même de bonne taille, donc
Ok.
c'est quand même moins facile à transporter. Mais en tout cas, il est là en ce
Tu nous as
moment,
pas dit le
donc
prénom.
Silo.
Ok.
Voilà.
Et c'est toi qui l'as choisi ou...
Je l'ai choisi avec mon copain, ouais, et ça fait, il a 2 ans et demi maintenant.
D'accord.
Donc non, mais c'est cool, là même pendant Roland, de pouvoir rentrer chez moi et de pouvoir être avec lui et déconnecter sur un grand chelem comme ça, c'est un beau privilège.
Tu FaceTime Silo quand t'es pas là ou comment ça marche la relation?
Je le FaceTime, ouais, avec les beaux-parents ou avec mes parents quand on l'a pas.
Ok.
Ouais, je l'ai tout le temps. Ouais.
Trop bien. Merci.
Merci à toi.
Bon Roland.
Merci.
Et Bamos va nous poncer un peu la terre
En tout
battue,
cas,
porte d'Auteuil, et on va te suivre
en
de
tout cas,
près.
on va bien me voir.
Trop bien.
Ouais,
Merci Yann.
merci.
Salut Marina.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de marque. Aujourd'hui, nous sommes à la ASICS House à Roland-Garros, à littéralement 35 secondes de l'entrée de Roland. Je pourrais vous donner la porte, mais bon, je crois que je suis un invité privilégié avec Marina qui a fait 11 ans au service sponsoring, qui a même été responsable du sponsoring. Et maintenant, tu fais la même chose, mais à ton compte, c'est bien ça?
Ouais, j'ai monté une agence de consulting qui s'appelle Sama Sport. Et ça fait un an et demi que j'ai la chance d'avoir encore ASICS en tant que partenaire cette fois, en tant que client.
Ce qui est trop cool, c'est qu'ASICS, c'est une marque plus ou moins historique dans le tennis, qui a vu passer du très très beau monde, notamment Novak Djokovic actuellement. On va parler aussi d'Arthur Fils et de bien d'autres personnes qui ont inspiré cette marque. Un petit peu comme d'habitude, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais en fait, on va retracer l'histoire d'ASICS à travers ses ambassadeurs historiques, ses temps de passage forts et quelques anecdotes bien senties de Marina qui connaît à peu près tout sur tout le monde dans cette boîte. T'es prête?
Ouais.
Trop bien.
On y va.
Alors, juste déjà, un petit état des lieux, c'est que j'ai tourné un peu plus de 100 épisodes pour le moment dans le podcast. Et un des ambassadeurs de longue date, c'est quelqu'un qui est passé souvent sur le podcast, qui est Sam Sumik, un coach, qui m'avait dit à l'époque, je lui avais dit, Sam, c'est qui ton contact? Il m'avait dit, Marina, magnifique, exceptionnelle. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec toi, je tenais à te le dire.
Moi aussi, très très contente, c'est sympa de la part de Sam. Et puis bah, merci ouais, d'être là, on est ravis de vous accueillir dans la maison ASICS.
Et ouais, c'est un des rares podcasts qu'on fait en direct, en personne, filmé par Arthur, d'ailleurs juste derrière la caméra. Et donc pour commencer pied au plancher, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu le nez de signer Novak Djokovic, parce que je crois que les personnes chez ASICS ne te croyaient pas autant que toi, tu pouvais sentir ce projet-là en tout cas.
Ouais, alors bah déjà, c'est pas venu de nous au départ, c'est venu de lui.
Ouais.
C'est encore plus fort.
Incroyable.
C'est-à-dire que lui était à un moment de sa carrière où il était blessé en 2017 et il a eu envie de tout changer, son équipementier textile, chaussures, son staff, il avait envie de repartir fraîche quoi. Et là, on a son agent qui... J'entends des bruits. Novak aimerait essayer les chaussures. Et donc, Eduardo, son agent, vient nous voir et me dit, Novak, il aimerait savoir si vous serez chaud pour le sponsoriser. Il a envie de changer. Il recherche ça.
Ouais.
J'étais un petit peu surprise.
Il est combien à cette époque-là?
Il est déjà dans les tout meilleurs joueurs au monde. Il a une blessure, il me semble, au coude qui l'handicape pas mal. Et son classement au mois, c'était Roland 2017, où donc il ne joue pas. Je ne sais plus son classement, mais il a eu des titres Grand Chelem.
Il est top 3 déjà.
Il est top 3 quoi. Il est déjà. Il
a... Si ce n'est peut-être au-dessus.
Ouais.
On ne sait pas trop entre les mais 3, bon. Les 2. S'il y a des machines du calcul
il
savant du classement, mettez-le nous en commentaire. Merci.
Ouais, il fait partie du Big Four, ça c'est sûr.
Ok.
Et ils nous disent, voilà, il a joué pendant 12 ans avec la Barricade et il aimerait qu'ASICS développe une chaussure à son image et est-ce que vous êtes partant? Et j'étais assez surprise et en fait, notre stratégie à ce moment-là n'était pas du tout d'avoir des ambassadeurs chaussures.
D'accord.
On était vraiment sur ce qu'on appelle la silhouette complète avec textile, chaussures. En fait, ASICS marchait déjà quand même bien à l'époque. On n'avait pas le besoin de promouvoir particulièrement avec un visage la chaussure.
Ok.
Donc, ça a été compliqué, c'est vrai, en interne.
Parce que lui, d'emblée, il vous a dit, moi, je veux pas être textile, je veux être que chaussure.
Ouais.
D'accord.
À ce moment-là, il était déjà il finalisait son deal avec Lacoste.
Ouais.
Et il n'y avait pas de porte d'entrée pour nous. Donc,
est-ce que tu sais s'il a mis plusieurs marques en concurrence sur un moule pour voir dans lequel il se sentait le plus à l'aise? Ou il est venu voir que vous sur ce
démarche-là? Je sais pas. Je pense qu'il avait déjà eu vent de pas mal de choses. Il sait qu'on était capable de faire des chaussures sur mesure. Il était ouais. au courant. Il y avait un joueur de double qui s'appelle Nenad Zimonjić,
ouais.
un Serbe qui lui avait bien vendu déjà la marque ASICS. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été... Non, je crois pas qu'il ait été voir d'autres marques.
Ok. Donc, il vous approche. Toi, tu te dis gros coup à jouer. Et pourquoi tes collègues de travail le sentaient moins à cette époque-là?
Parce que on avait envie de se détacher de l'image d'ASICS spécialiste de la chaussure finalement.
Ah oui, ce que tu disais juste
avant. Okay. Et puis en plus, la visibilité est beaucoup plus grande lorsqu'on a un ambassadeur qui porte le textile. Le logo est sur la chaussure, bah, les caméras ne se concentrent pas tout le temps sur les pieds. Donc on sait que l'objectif pour nous, c'était de développer notre notoriété de marque. Voilà, ouais. Et qu'avec la chaussure, on n'était pas très, très chaud. Et au final, je sais pas, j'ai senti le coup parce que pour moi, ASICS, il leur manquait un nom.
Okay.
Et je me suis dit, même si c'est la chaussure, ça reste Novak Djokovic. Et aussi, je trouve qu'en interne, dans une entreprise, même une multinationale comme ASICS, ça permet aussi de créer de l'excitation et booster un peu les employés d'avoir des égéries de marque comme lui.
D'accord.
Et donc, j'ai finalement eu l'aval de la direction et on a pu entamer les négociations.
Et c'était qui les gros noms d'ASICS avant Novak?
C'était... dans l'histoire, dans les années 90, Correggia, Alex oui. Correggia, qui a été numéro 3 mondial avec ASICS, et Thomas Enquist. On avait une chaussure qui portait son nom.
Qui était numéro 4, je crois, au mieux.
4 mondial en 2000, ouais.
Et Thomas Enquist, suédois.
Suédois.
Très bien. Donc Novak, comment vous le signez et comment ça marche en fait de signer un gars comme ça? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos que toi seul sais et que nous tous ouais. saurons dans la foulée.
Ben, je vais vous dire, je pense que c'est beaucoup plus simple, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est plus simple de signer Novak Djokovic que de signer certains juniors. Vraiment.
Parce qu'il
est plus mûr, il sait ce qu'il veut, parce qu'il a une vision déjà par rapport au produit très détaillée de ce qu'il recherche. Nous, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on a une espèce de maturité, une expérience qui fait que ça va assez vite.
Ouais.
Et sur la partie négociation, droit d'image, tout ce qui peut, tous les sujets dont on peut parler dans ces cas-là. En fait, quand on parle à des stars, ça c'est très simple parce que ça sera jamais en dessous d'un montant. En fait, c'est soit ça, soit ça s'arrête et on reste amis.
Et ça, il le dit d'emblée.
Et c'est clair.
Pour pas perdre de temps.
On perd pas de temps, en fait.
Ok, donc d'emblée, il vous briefe sur le minimum, le seuil qui est de combien? Le plafond.
Je ne peux pas donner de montant, mais ce que je peux... Merci. Ouais, c'est impossible pour moi de vous donner le chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il ne s'engage pas en dessous de 7 chiffres avec aucune marque.
Donc 7 chiffres, c'est quoi? C'est 1 million d'euros?
Bah, pas en dessous de ça, ouais.
Ok. Ouais. Un ou c'est un multiple de...
Bon, ça, c'est la base. On commence par là.
Ok.
Après, il y a des tas d'éléments qui changent, qui vont faire que ce chiffre il augmente ou dans une négociation de contrat avec un joueur, que ce soit Novak ou d'autres, il y a beaucoup beaucoup de paramètres qu'on va utiliser, des leviers de négociation sur notamment une chose qui vaut beaucoup d'argent, c'est le temps.
Ouais.
Plus on demande de temps, plus on demande de temps pour utiliser nos athlètes, faire des photos, des vidéos, des interviews, plus c'est cher.
D'accord.
Ça c'est une notion importante, surtout avec les joueurs comme lui.
Et donc, il y a des grilles de, on va t'utiliser 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois, et ça tranche.
Alors, lui et tous les top joueurs à qui j'ai parlé, le départ de la négo, il n'est pas en dessous de ce chiffre et on ne donnera jamais plus que ce temps.
D'accord.
Entre, on discute.
Ok.
Et en général, bon, nous, Novak, on l'a... on arrive à utiliser 4 fois dans l'année avec les shootings photos. Je pense que Lacoste a beaucoup plus de temps avec lui parce qu'il le paye bien plus. Donc, ouais. Après, voilà, il y a des tas d'éléments qui vont entrer en compte. Les bonus, les réductions vont dépendre de ses résultats. Voilà. Mais Novak et son équipe sont super pro. Raisonnable, clair et ça va vite. Plus que parfois un jeune.
Novak, il a une fanbase qui est impressionnante. Il y a beaucoup de monde qui l'adule et qui hurle son nom dans tous les stades du monde. Mais il a aussi cette image de troisième larron derrière Roger intouchable et Rafa. Voilà. En vrai, vous qui le côtoyez depuis des années, il est comment? En vrai de vrai.
Alors. Moi, je le connais pas en dehors de l'environnement pro.
Oui.
Donc, je peux pas vraiment te dire comment il est en mode copain, famille, etc. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un quelqu'un de très honnête, de respectueux, C'est un acharné du détail, mais on va dire que nous, ça nous va bien parce que les Japonais ont cette culture et sont très, très à cheval sur justement toutes les mini-infos et les micro-détails qu'on va pouvoir obtenir de lui pour progresser. Ouais. Donc, dans l'environnement de travail, ASICS et Djokovic, ça fonctionne en fait. Tu vois, c'est simple. Mais après, c'est un mec qui est dans le contrôle. On fait pas ce qu'on veut. Tout est approuvé en amont. Voilà, on n'est pas en freestyle. Après, lorsqu'on travaille sur un projet de chaussures avec lui, il consacre du temps. Et moi, il y a une anecdote que je veux partager avec toi, c'est que donc.
Avec plaisir, Marina.
Ouais, je pense que c'est cool pour les gens qui nous écoutent. Donc on le signe donc en 2017 et là on se rencontre à Monaco et on a déjà un premier prototype quoi de chaussures à lui montrer et il arrive, il s'attendait pas à ce qu'on ait déjà développé un premier modèle et on est dans un hôtel, tu vois, pas sur un court et on lui dit bon bah est-ce qu'on se revoit demain pour essayer la chaussure sur un court ou tu veux l'essayer maintenant? Il dit non maintenant, mais il était en chino avec un polo Lacoste et le mec met la chaussure et il sort dans le couloir de l'hôtel et là pendant un quart d'heure, mais je vous mens pas, pas chassé, sprint, pas croisé, fente, saut,
déchirure du pantalon.
Il s'est dépouillé pour. Il était trempé. Il a dit ouais, bah, c'est pas mal comme.
Ah ouais, il était vraiment trempé.
Il était vraiment et pour l'avoir fait avec d'autres joueurs.
Je vais me changer, je reviens.
Non, c'est vrai que d'autres joueurs ils mettent le pied dans la chaussure, ils disent ah ouais c'est bien, merci.
Ouais.
Lui a vraiment testé, tordu la chaussure.
Ah ouais,
ouais,
incroyable.
Donc, et à ce moment-là, on a tellement de feedback que finalement, le développement des prototypes 2 et 3 ont été assez rapides.
Est-ce que tu dis que tu n'étais pas forcément pote en off, t'es jamais allé boire des bières avec lui?
Non, ouais. Je peux autant te dire que Gaël, mon fils, est venu chez moi regarder The Voice en prenant le plaid, on se commande des pizzas en mode vraiment cool, mais c'est pas Novak, non.
Très bien, on pourra peut-être en parler encore un peu après. Et donc, ouais, si tu as deux, trois autres anecdotes sur comment il a fait évoluer le produit, comment, sur quoi vous avez travaillé ensemble, si tu peux nous imaginer tout
ouais,
ça,
alors, le cas concret. Ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est il essaye ASICS, on sort un modèle qu'on arrive à, en 3 mois, vraiment, j'étais bluffée, et il gagne l'année d'après Wimbledon, en 2018, Wimbledon US Open. Donc déjà, on se dit, waouh, quoi, le gars, il reprend et bon. Et là, on lui dit, on sort un nouveau modèle qui va être ta chaussure, la courte FF Novak.
Ouais.
Est-ce que tu es OK pour changer? Je vous assure, tu connais un peu les joueurs de circuit, 9 sur 10 disent, mais non, je viens de gagner deux grands chelems. Qu'est-ce que tu me dis?
On est à quelle année là?
Et là, on est en 2018.
Okay.
Donc, fin 2018. Et là, on lui sort ça. Et on s'est dit, il va nous envoyer dans nos 22, il va nous renvoyer. Et en fait, il a dit, OK.
Wow.
OK. Et ça, je peux vous dire que c'est rare. Alors, il a vraiment un état d'esprit quand même assez ouvert. Il est ouvert sur l'innovation, sur le progrès.
Ouais.
Et il change de modèle. Et donc,
il change de modèle.
Il change de modèle. Et là, il gagne l'Open d'Australie avec. Et c'est assez incroyable, ça.
Après, mentalement, il savait qu'il pouvait toujours revenir au produit qui lui allait très bien. Donc, il était ultra malin, en fait. Il s'est dit, trop cool, je vais bosser sur des micro-détails qui peuvent que gagner en performance.
Et il l'a refait encore, du coup, pour passer sur la courte FF3 l'année dernière. Et alors qu'il avait fait en 2021 la meilleure saison de sa vie.
Trop bien.
Donc je pense que on peut dire beaucoup de choses sur lui. Il est controversé, on le sait, mais il a cet esprit de ouvert. Il a envie d'améliorer, de s'améliorer, de nous faire progresser. Et ça, c'est top.
Est-ce qu'on a tout dit sur Novak ou tu penses qu'il y a des trucs cool à rajouter?
Non, je crois qu'à après.
T'inquiète, on a la nuit.
Non. vous avez le principal, je pense.
Ok. Alors, juste une chose, il a été reprolongé. Comment ça marche dans ces cas-là, une reconduction de contrat?
Excuse-moi. Alors, reproduction.
Reconduction.
T'as dit reproduction?
Reconduction.
Reconduction, c'est mieux.
Ouais.
Reconduction de contrat. En fait, il avait envie de continuer. Puis, je crois que la chaussure, comme la raquette et le cordage, c'est tellement important. Tu le disais, tu vois, c'est à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de reconduire en fait un joueur qui a une chaussure qu'il aime énormément et qu'il a développée avec nous. Il n'y a jamais eu de sujet et la question va se poser encore dans pas longtemps et j'espère qu'on va continuer quoi jusqu'à la fin de sa carrière au moins.
Et donc là, il va avoir 37 ans.
Ouais.
Donc, au moment où on s'assoit autour d'une table et qu'on dit, écoute, Novak, tu dans 3 ans, t'as la quarantaine, mon grand. Donc, est-ce que on revoit les conditions à la baisse un peu comme un joueur de foot qui vieillit dans un club, ou au contraire, il y a toujours un seuil où ça
Ouais.
descendra jamais en dessous?
Mon feeling, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas encore discuté de ça,
Et t'as pas
c'est
eu le cas de figure encore dans ton expérience pro?
si,
D'un joueur vieillissant,
si,
si, quand même.
si, mais
Mais
c'est
pas
pas
la
une légende.
statue, voilà.
De légende, d'une légende, je pense qu'on aura, qu'il y a une certaine, il y a une valeur sur, dans laquelle on ne pourra pas descendre, et je pense même que l'histoire des contre-performances et du classement, il n'y aura plus de sujet là-dessus non plus.
Ok.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, la valeur d'un Nadal à 100 mondial ou à 3 mondial, pour moi, elle est un peu la même, quoi. Là, ce qui va changer énormément, et là où on peut discuter, c'est l'exposition. C'est-à-dire qu'il arrête sa carrière, on le voit moins, on nous voit quand même moins, on parle moins de nous, alors. Ça, il va l'entendre.
Je comprends.
Voilà.
Ok. Oui, ce qui est très différent, toi, tu es vraiment la partie sponsoring, où un joueur de club, évidemment, va renégocier son salaire à la baisse quand il vieillit, mais fondamentalement, son contrat avec une marque XY, s'il a encore beaucoup de appearance, comme vous dites,
Et oui, et puis
et puis
aussi,
surtout un impact.
et puis je crois qu'il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que aujourd'hui, Novak Djokovic, c'est une marque. Donc en fait, lui veut plus qu'on le voit seulement comme un joueur de tennis, mais comme une marque. Et puis je pense que sa fanbase sur Insta et d'autres chaînes de réseaux sociaux va ne faire que grandir. Et ça, on le valorise.
Est-ce que tu as vu un avant-après du coup, Novak, sur la chaussure, sur l'explosion des ventes, ou comment ça se traduit?
Bien sûr, ça fait un moment que le partenariat existe, et du coup, plus le temps passe, et plus il est connu, et on l'associe à la chaussure ASICS, et ça a un impact sur les ventes, oui.
Trop bien. Alors, avant de parler d'un autre ambassadeur type la Monf, on s'est croisé à l'Open d'Australie, à Melbourne. Je suis d'ailleurs venu voir l'ASICS House qui était magnifique. Je vous encourage à regarder le vlog. Voilà. Et tu me disais à ce moment-là, le marché part en cacahuète. Le marché est fou. C'est-à-dire que c'est la course à qui offrira le plus à des gens dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu disais, c'est peut-être plus dur de signer un junior que de signer Novak. Et comment tu peux nous présenter tout ça, toi, de l'intérieur, qui connais ce milieu comme personne?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses qui font que le tennis est un sport qui coûte de plus en plus cher pour les annonceurs ou les équipementiers. Déjà, c'est un sport qui est de plus en plus regardé maintenant aussi en streaming et puis sur différentes chaînes. Donc, on peut se connecter, regarder des matchs de tennis.
Ouais.
Et voilà, ça fait que accroître la valeur, en tout cas marchande des joueurs.
Oui.
Le fait qu'ils soient actifs sur les réseaux et qu'on les voit, alors qu'il y a 10-15 ans, bon, ben, il n'y avait que le terrain qui parlait de la.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Et ils ont d'autres moyens de communiquer. Pareil, ça a une valeur. Je pense que la compétition, clairement, il y a de plus en plus de marques dans le tennis aujourd'hui. Je crois que chez les garçons, on a à peu près 21 ou 22 marques investies dans le tennis.
Ah oui.
ASICS, enfin, nous, on est là historiquement depuis 20 ans, mais il y a des nouvelles marques. Voilà, je peux citer Billy Badou, Armani, des marques de prêt-à-porter, des
La
marques
concurrence
de
est
la
rude.
concurrence est rude. Et on a tous les mêmes objectifs quand même, hein, plus ou moins. On a tous envie d'avoir les meilleurs, les meilleurs athlètes, puis des personnalités qui font parler. Donc tout ça fait que bah, quand un agent nous dit voilà, j'ai ce joueur qui est libre, mais il vaut tant, voilà, ça devient compliqué. Ensuite, il y a aussi un autre phénomène, c'est que je trouve que le tennis a aussi sur le terrain a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de bons joueurs, donc trouver le bon, c'est plus compliqué qu'avant pour de mon impression, surtout chez les garçons.
Ouais.
Là, il y a un énorme vivier de joueurs entre, on l'a vu avec la semaine dernière à Rome, hein. où tu as Marouskan qui bat Alcaraz.
Oui.
Il est hors des 100 quand même. C'est...
Ouais.
Et donc, tout le monde joue bien, quoi. Et du coup, pour un équipementier, de faire de la détection sur ces joueurs-là, c'est compliqué de trouver le bon, quoi.
Donc, moralité, il faut placer des tickets de manière risquée, peut-être, à droite, à gauche, en espérant qu'il y en ait un qui explose.
Ouais, oh, oui, oui, je pense qu'il faut... alors moi, j'ai pas envie de révéler la stratégie non plus d'Azix là. C'est comme
mais
si tu me
t'as
ton point faible et ton point fort,
revers.
Tu vois. J'ai pas envie qu'on m'attaque sur mon revers.
Broche en couloir, je peux le dire ouvertement. Me dérange pas.
Mais... ouais, on essaye de s'ajuster au mieux. Je pense qu'il y a un vrai... chez les garçons, en tout cas, on va peut-être... Voilà, on va essayer de miser moins...
Mais miser
moins
mieux.
Fort, mais miser mieux sur... Et pour être honnête, parfois c'est aussi plus simple de travailler avec des joueurs qui sont peut-être pas au top, les tops du top, mais qui sont juste derrière, et qui sont présents dans les grands chelems, qui nous donnent plus de temps, qui sont plus cool, qui ont pas le melon.
Ouais.
Et ça, c'est bien. Et parfois, certains juniors ou jeunes, ils ont l'impression qu'ils ont déjà gagné 150 grands chelems, et c'est plus difficile de travailler avec eux.
Bon, il y en a un qui était cool, qui était chez vous, c'est la Monve, donc.
Ouais.
Deux, trois infos sympas à relayer sur votre partenariat, évidemment, faire le lien avec la marque. Lui, il était textile et chaussures.
Ouais.
Donc, la Total.
Ouais.
Raconte-nous un peu comment c'était fait, parce que la Monve, il fait aussi partie des joueurs. La Monve, il fait partie des joueurs qui est passé par 4-5 équipementiers.
Ouais.
Et du coup, combien de temps vous l'avez eu? Pareil, le rapprochement et puis l'expérience humaine. Raconte-nous tout ça.
Ouais, alors moi pour moi, la Monf est un des joueurs, Gaël Monfils, qui a le plus impacté Azix. Alors,
ah oui,
ouais. Pourtant, Correia était 3 mondiales, 2, Engvis 4, on disait, Engquist 4. On a eu des filles qui jouaient très bien, mais Gaël, il a fait bouger les lignes. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a un charisme de fou,
okay.
Qui est drôle, qui est bonnard.
Ouais.
Voilà, il est gentil, il fait rire, il porte super bien les fringues, c'est un athlète incroyable. Donc en fait, on pouvait mettre ce qu'on voulait sur lui dès qu'il mettait les habits, c'était beau quoi.
Ça déroule.
Il dégage ce truc qu'on voit pas beaucoup. Je me souviens, alors, on a pris un contrat, lui aussi était blessé, donc c'était quand même un pari.
Ah ouais.
Il est dans les choux. Bon, il a souvent été blessé, tu me diras. 2013, et là il nous dit, mais moi je... C'était un gars qui, déjà, c'est lui qui fait ses propres négos. C'est le seul joueur que je connais qui fait ça. Il a son agent, hein,
okay.
Mais il est toujours là, c'est lui qui fait les négos.
Et il lui dit, reste chez toi, j'ai pas besoin de toi.
Bah, ils travaillent ensemble, mais c'est lui qui prend la parole, tu vois.
Ouais, incroyable.
Ouais.
Bah, ils doivent débriefer ensemble et puis en backup.
Ouais, bon. Mais il est passionné aussi dans son discours, il a de ses convictions, il est toujours sûr qu'il va finir l'année
top 5.
Au départ, on l'a cru, hein, et on est allé, puis il avait une belle carrière déjà derrière lui. Donc,
forcément, ça embarque.
Ça embarque.
Quand t'as un gars comme ça en face de toi.
Oui, et puis on avait aussi envie, à ce moment-là, Azix avait le désir de vraiment faire une chaussure complètement 100% faite pour Gaël. Donc on a fait un moule pour lui, on a développé un moule et tout ça. Et comme il avait des problèmes de genoux...
Sachant qu'il chausse du 50 en plus.
Voilà, exactement, ouais. 50. Et on a fait un moule donc pour lui. Et il a vraiment plus de douleur au genou. Après, il a eu des douleurs ailleurs. Mais en tout cas, on l'a vraiment aidé à traverser les saisons avec une chaussure qui était vraiment 100% customisée.
Trop bien.
Gaël, des anecdotes marrantes, je vais vous en donner. Première fois qu'il vient au Japon rencontrer l'équipe ASICS. Donc, les Japonais parlent un petit peu anglais, évidemment pas français. Et on va dans ce restaurant qui est très connu, où Kill Bill, donc Uma Thurman, qui portait les chaussures ASICS. On va souvent amener nos clients là-bas.
Ouais.
Et on va dans ce restaurant incroyable.
C'était
et
donc, où,
le restaurant japonais à Tokyo.
Ouais.
Et il y a le président d'ASICS, mon patron. Enfin, on est peut-être 5-6 avec lui. Et puis il commande, il adore les sushis au saumon, et il commande, je pense, 50 pièces et on va dire, on s'est dit, mais il va jamais finir.
Et pas touche.
et ce qui est très drôle, c'est qu'on a passé la soirée à rigoler parce qu'il apprenait des phrases, des mots français petit peu.
Ouais, voilà, les premiers qu'on apprend à tout le monde.
Les premiers qu'on apprend, et il disait pas du tout ce que ça voulait dire. Donc il disait, voilà, pour dire bonjour, tu peux dire ça.
Ouais.
Et donc, on voyait le président d'Asie, ces gens répétaient.
Ah oui, d'accord, voilà. C'était pas les alors, serveurs du resto,
bonjour,
c'était vraiment.
Il dire bonjour, ça va, et il disait quelque chose d'un peu plus vulgaire, quoi.
Extraordinaire.
Et Gaël était plié de rire.
Est-ce qu'il s'est envoyé les 50 makis?
Et il s'est envoyé les 50 sushis.
Machine. Machine Gaël, 3 mètres derrière la ligne et au sushi, ça reste une machine. Très
ouais,
bon.
Impressionnant.
C'est bon. Et pareil, il y a eu un effet Gaël, mon fils, peut-être sur le marché français?
Complètement. Alors aujourd'hui, je ne peux pas te donner des chiffres. Je veux dire, on a fait quand même 8 ans de partenariat avec Gaël. Et clairement, il y avait un engouement très important. On a pu voir pourquoi. Parce que déjà, nos magasins spécialistes ont commencé à acheter la collection textile davantage. La collection de Gaël.
D'accord.
Donc ça, c'est vu pareil aux États-Unis. Puis Gaël, il a cette capacité de élever un petit peu les foules partout où il va, quoi.
Oui,
et ça, c'est fou.
Ouais. Et du coup, tu dis les États-Unis aussi vous ont davantage suivi grâce à l'aura de Gaël, mon fils, qui est français.
Complètement.
Incroyable.
Ouais, c'est-à-dire qu'on voyait dans les magasins la collection de Gaël, les chaussures, il y a vraiment eu un impact aussi sur le business, et, alors qu'il n'était pas top 10 à ce moment-là. Donc,
et sur les réseaux aussi?
Sur les réseaux, bien sûr, bien plus suivi, il y a eu un boost de notoriété,
incroyable.
C'est sûr, de mon fils.
Top. On a fait le tour de Gaël?
Ouais.
De l'avoir perdu, ou c'est le jeu?
Non, on n'a pas. Chacun voulait s'arrêter. On
D'accord.
a vécu une très belle histoire,
okay.
un très beau partenariat, et on s'est dit bah c'est bon.
Ouais.
On a eu ce qu'on voulait chacun, et on va voir lui voulait peut-être partir sur notre aventure, et nous on s'est dit on a fait le tour, on est content. Merci.
Ok. Un autre cas de figure. T'inquiète. D'ailleurs, vous entendez un petit peu de bruit derrière, je vous le répète, on est dans la maison ASICS en plein Roland-Garros. C'est les qualifs, mais voilà, il y a les joueurs qui passent récupérer leur dotation, donc c'est normal, ça vit, s'il vous plaît, un petit peu de tolérance pour les bruits de fond. Voilà, merci beaucoup. Un petit cas de figure différent, c'est un jeune qui monte, Arthur Fils, qui commence à faire parler de lui. Tu nous disais que c'était un peu compliqué parfois d'aller chercher les juniors. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur un profil comme Arthur?
Arthur, c'est son agent de l'époque, Karine Molinari, qui nous a contacté pour. On l'a pas détecté.
D'accord.
On l'a pas vu. Il avait envie de. Il recherchait un équipementier. Il aimait bien les chaussures. Il nous a dit voilà ce que ça vous intéresse. Voilà, donc il est passé au travers un peu les filières de détection, tu vois, classique chez nous. Et du coup, on l'a signé sans connaître vraiment, et on l'a connu au fil du temps. Et Arthur, c'est un gars qui me fait penser à Gaël d'ailleurs.
Ah ouais,
ouais.
Bonnard.
Et à Joe, très bonnard, très gentil, une bonne bouille quoi.
Ok.
On a envie d'être.
D'être pote avec lui.
Pote. Ouais.
Des grosses ambitions. Tu le sens comment?
Clairement, je pense que c'est un joueur qui a pour ambition d'être dans les meilleurs mondiaux. Et je trouve que comparé à plein d'autres jeunes qu'on voit français notamment, lui il se met pas du tout de barrière. Et ça, c'est plutôt bien.
Ouais, c'est bon ça, un fonceur.
Un fonceur, et quand il va jouer des mecs plus forts que lui, il y croit à 100%. Quoi.
Comme il est plutôt très en avance, ou en avance tout court sur les temps de passage, est-ce que du coup, il rentre un peu dans cette case où tu disais le marché s'affole et il a fallu... Vous aussi vous affolez pour le signer? Comment ça s'est passé?
Non, parce qu'on est passé dans un timing où à ce moment-là, sa valeur marchande n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui.
D'accord.
Donc ça n'a pas été compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de le garder.
Et ça, comment ça marche? Tu peux nous dire?
Mais il va y avoir.
Il arrive en fin de contrat, peut-être?
Voilà, il arrive en fin de contrat. On va avoir une discussion en interne. Ce que Arthur vaut, comment on peut l'accompagner davantage, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, comment on peut l'utiliser. Donc il n'y a pas que l'argent, le budget, il y a aussi l'utilisation de son image et les besoins des pays. Est-ce que la France est le seul pays intéressé? Est-ce qu'il va impacter les autres régions s'il est plus fort? Toutes ces questions.
D'accord. Une anecdote ou deux quand même sur Arthur?
Eh ben,
tu cherches.
Il est venu au siège d'ASICS France lors du tournoi de Montpellier.
D'accord, donc les bureaux sont à Montpellier.
Ouais, les bureaux du siège France sont à Montpellier, les bureaux du siège monde sont à Kobe, au Japon.
Oui.
Et donc Arthur, on l'a vu à Montpellier, et il a fait le test de l'œuf, qui est le test historique chez nous, où en fait pour pour tester l'efficacité du gel qu'on met dans les chaussures. On fait en fait tomber un œuf de à peu près 1 mètre, 1,50 mètre de haut.
D'accord.
Et on lui donne un œuf frais. Et puis du coup, il le fait tomber. Il pensait jamais que l'œuf n'allait pas casser sur le gel. Et il a essayé 10 fois, 15 fois comme ça. Il a dit, mais non, c'est pas possible.
Incroyable.
Et ouais, il est.
Faut
il
bien
est,
viser au-dessus de la chaussure.
Mais bon, par contre.
Ah, 20e œuf, j'arrive pas à le rentrer.
Non, il a pas cassé parce que. Et du coup, bon. Ça n'a fait que confirmer en fait la fonctionnalité du gel dans nos chaussures.
Incroyable. Est-ce que vous faites le test du sushi et du bœuf de Kobe au Japon ou ça s'arrête là?
Non, on a pas fait ça. On aurait pu faire de comment on appelle ça, l'octopus en français,
la pieuvre.
La pieuvre, parce que c'est le comme poulpe. Ça que le poulpe qui a été, c'est l'idée de manger du poulpe qui a donné l'idée à Monsieur Onitsuka de faire la première chaussure de basket et qu'elle soit adhérente.
Ouais.
Donc la prochaine fois, tu me donnes une idée, on lui fera manger du poulpe, on lui racontera l'histoire.
Et ça marche comment, ceux qui vont visiter le siège monde? Parce qu'ils font le tournoi pas loin, ils font d'une pierre deux coups?
Ouais.
Ou
ouais. C'est plutôt ça. En fait, il y a le tournoi donc féminin et masculin, et du coup, on a le, bon, c'est à Tokyo, mais le train, le bullet train, est à 3 heures de Tokyo à Kobe, et on essaie de les faire venir dans notre institut. ASS, comment on dit en français,
centre de recherche.
Centre de recherche, ouais, on va dire ça, centre de recherche, institut.
D'ailleurs, on a eu la chance d'être invité Tennis Légende au Summit, qui est un regroupement de plein de médias pour le lancement de la chaussure de Novak fin d'année dernière. Et il y a eu des images tournées dans cet institut de tests de chaussures. Je trouvais ça incroyable. Déjà de voir la conception d'une chaussure de l'intérieur, découpée étape par étape, en partant d'un dessin. Et la manière dont les Japonais conçoivent les produits, on sent que c'est vraiment au millimètre, quoi. C'est assez impressionnant.
Ouais, j'ai eu la chance d'y aller. C'est un vrai bunker avec des gars en chemise blanche et qui travaillent dans des pièces assez isolées. Il y a des pièces d'une forte humidité, sèche, température élevée, moins 30. Enfin, ils testent toutes les chaussures et les produits dans un environnement très spécifique, quoi.
Ils rigolent pas, les Japonais. Mais tant qu'on y est, on va rester un peu sur les valeurs, l'historique et les objectifs de la marque, avant de peut-être nous relayer une histoire d'ambassadrice féminine aussi. Mmh. Est-ce que toi, tu as évolué au contact des Japonais? Est-ce que ça t'a modifié ta façon de travailler? Ils sont tellement pointilleux à la virgule près.
Ouais.
Comment ça t'a façonné, toi, personnellement? Et qui tu es, d'ailleurs? Parce que on parle des joueurs de tennis, mais tu as été joueuse sur le circuit aussi,
ouais,
je crois.
J'ai été joueuse sur le circuit pro et j'ai été entraîneur aussi à côté à la fédération.
Ok. Combien de temps?
J'ai été entraîneur 7 ans. Donc, d'accord. J'ai fait club, ligue, fédération. INSEP, à l'époque, on avait ouvert un pôle à INSEP.
Mais tu as déjà 18 vies, Marina. Ok.
En tout cas, deux reconversions.
Ouais.
Et c'est plutôt cool. Et je me souviens plus de ta question, du coup.
Comment t'as évolué? Mais voilà, déjà, qui tu es? T'as été sur le circuit, t'as été combien au mieux?
235.
D'accord. En contrat avec une autre marque, on ne citera pas, c'est pas grave.
Et j'ai fait les caves de Roland et c'est hyper stressant. Alors
maintenant,
j'ai beaucoup plus de... quand je regarde les joueuses du premier tour ou les gars, j'ai un petit peu plus de tolérance. Je me dis, bon, ils doivent bien...
Sur quel court t'avais joué?
Alors quel court? Celui qui est juste à côté du Suzanne Lenglen.
Le 10 ou le 11?
Ouais, le 10 ou 11 là. Ouais. Ouais.
Et t'avais perdu contre une inconnue ou pas?
Barbara Schell, c'est possible.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Qui est maintenant au micro d'Eurosport.
Bah ouais, tout à fait. Et monsieur Amélie, bon, moi, parce que je me suis aussi entraînée avec Amélie à un moment. Donc, on va dire que c'est un environnement que je connais bien.
Et t'as arrêté à quel âge le circuit?
À 25 ans. Et là, je gagne le crit.
Okay.
En fait, c'est un tournoi donc, avec les meilleurs joueurs, en tout cas négatifs, jusqu'à l'époque, c'était jusqu'à numéro 21.
Ouais.
Donc, je gagne le critérium en 2005 et en même temps, je passe mon brevet d'état de deuxième degré. Et du coup, j'embraye quand même sur le coaching et c'était cool parce que...
T'arrêtes parce que t'en as marre de galérer sur le circuit secondaire?
Ouais, j'avais envie de gagner ma vie aussi. Je trouve que c'était dur. Je trouve que c'est dur de voyager seule. J'avais envie de me poser un peu. J'avais pas pour ambition de t'entraîner à très haut niveau au départ. Je me suis dit, je passe mon diplôme comme font beaucoup de joueurs. Donc, allez, je l'aurai. Puis ça m'a plu. Et dans la recherche de performance, je me suis dit, je veux comprendre un peu plus comment ça se passe, comment entraîner au meilleur niveau. Donc, j'ai passé mon BE2 après. Et j'ai entraîné une joueuse qui a gagné les championnats de France.
Ouais.
Et là, Patrice Dominguez m'a dit, ça te dit de bosser pour nous, quoi.
Trop bien.
Donc, c'était cool.
Et comment tu as cheminé jusqu'à devenir responsable du sponsoring chez ASICS?
J'ai arrêté avec la fédération en 2010. Et là, j'ai eu envie de faire une école de management du sport à l'ESSEC.
Tu as repris tes études après?
Ouais, j'ai repris avec…
Avec un statut
non, pas
sportif?
Du tout. Non, pas du tout. J'ai dû passer le concours d'entrée. On avait un master spécialisé en management du sport international. Il y avait d'autres joueurs, notamment il y avait Camille Pain. Nathalie Dechy l'a passé aussi. Alexandra Fusée l'a fait aussi.
À l'ESSEC?
À l'ESSEC.
C'est 15 000 l'année, non?
Ben, en fait, je…
J'ai filouté, tu peux nous dire.
Non, mais j'ai fait des choix de vie. Ouais, j'ai préféré investir là-dedans que dans, peut-être dans l'achat de quelque chose. Je me suis dit, il faut que je mette les moyens.
Donc, et c'est ce que tu as payé.
C'est ce que j'ai fait.
Ah oui.
Et on a fait 2 ans de master et c'était génial.
Ouais.
Il y avait des sportifs de tout sport, tout horizon, et puis aussi des avocats qui faisaient une reconversion et j'ai appris plein de choses. Et à ce moment-là, on me dit chez ASICS, ils cherchent quelqu'un à la promo. Je dis promo tennis, ils me disent ouais, promo sport de raquette. Et je fais non, c'est bon, tennis.
J'avais ras-le-bol.
Ras-le-bol.
La claque.
Il n'y a pas moyen. Ils disent mais quand même, rencontre le président d'ASICS France, c'est un gars qui vaut le détour. Et je le rencontre, Didier Dreul, il a fondé la filiale ASICS en France.
D'accord.
Et là, je vois un gars qui est complètement passionné de sport. Et il commence à me raconter plein d'histoires. Et je tombe un peu sous le charme de l'homme, en fait,
ouais,
du mec.
T'embarques,
ouais.
Comme Gaël.
Ouais, c'est ça. Il y a une vraie connexion. Et je me souviens, je repars à l'école et là, je leur dis, ça s'est super bien passé. Ils m'ont fait une proposition, mais j'ai dit, je sais pas, le tennis, j'aimerais bien voir d'autres choses. Et elle est sec, les profs m'ont dit, mais non, mais vas-y, t'as zéro expérience en entreprise. C'est une super première opportunité, c'est une belle marque.
Ouais.
Et voilà. Donc, responsable promo France, sport de raquette, j'avais squash, tennis, badminton.
T'es arrivé direct à ce poste-là?
Direct.
Wow.
Mais le running prenait beaucoup de place à ce moment-là. Et du coup, le tennis, il fallait vraiment tout monter, tout faire. Et après.
T'as galéré au départ ou t'as rapidement pris tes marques?
Bah non, parce que j'avais un patron qui me laissait vraiment en autonomie. Donc galérer pour avoir des budgets, parce que sans budget, c'est compliqué. Mais petit à petit, on a réussi à construire notre truc.
Trop bien. Et alors, le premier voyage au Japon, raconte-nous un peu, ça ressemble à quoi?
Bah, j'avais déjà.
Ou pas?
Non, malheureusement, j'ai pas rencontré Monsieur Onitsuka.
Monsieur Onitsuka.
Ouais, Onitsuka-san.
Jour férié d'ailleurs. Dans toute la boîte, le jour de son décès, non, c'est pas ça?
Oui, c'est ça, c'est ça.
Incroyable.
Et j'avais déjà été au Japon pour jouer, donc j'aimais beaucoup ce pays. Moi, j'ai une énorme affinité avec ce pays et les cultures depuis l'adolescence, donc je me suis sentie complètement à ma place. J'étais en joie de travailler pour une marque comme ça. Et ils n'avaient pas vraiment, par rapport au tennis, ils avaient la chaussure. Ils avaient vraiment besoin d'un coup de main pour le reste. Il y avait un peu besoin de créer une cohérence de marque, de donner envie, de créer un peu plus d'engouement. C'était génial de tout monter. En fait. Mais avant moi, il y a eu du travail de fait. Hein.
Ouais.
Les produits existaient déjà depuis longtemps. Et puis, on avait, quand je suis arrivée, 150 coachs. On avait les petits As, Monte Carlo, Auray. On avait plein de tournois. On avait Strasbourg, Coubertin. On avait... Donc, ça, c'est mon prédécesseur qui l'a.
Pourquoi vous avez plus tous ces tournois-là?
Parce qu'on a changé de stratégie. On est sur l'event. Ça nous prenait énormément de temps et de ressources. On s'est focalisé plus sur la partie influenceur et athlète.
Ah ouais, les influenceurs. Eh, d'accord. Ok. Et raconte-nous un peu une ou deux anecdotes sympas, ce que ça fait. Parce que c'est des cultures tellement différentes là-bas de dealer avec eux, d'apprendre ouais. à les connaître, de bosser, de coller un peu au moule, mine de
ouais.
rien. Comment t'as fait?
Alors moi, je suis quelqu'un d'un peu plus... je suis plus quelqu'un qui a une personnalité un peu rêveuse, un peu instinctive, plutôt créative que très,
cartésien.
Très cartésien. Et du coup, bah, ça m'a vachement aidé parce que moi... ils sont hyper structurés, quoi. La façon dont on communique en interne, c'est extrêmement poli. Ils prennent vraiment les pincettes, mais enfin, eux, c'est leur mode de vie. Donc, ça m'a vraiment aidé à communiquer davantage avec les Japonais et puis aussi à apprendre à parler aux autres régions avec leur code.
Ouais.
Donc, je pense que j'ai évolué énormément en tant que personne, à être plus concentrée. Mon boss me reprenait sur vraiment pour moi, ce qui était des détails. Et bon, j'ai pu que progresser. Et moi, je leur ai peut-être transmis mon ma même peut-être plus ma légèreté, mon côté mon instinct,
Ouais.
la façon dont j'étais guidée, comment je voyais le sport et je ressentais les choses, et c'est sympa quoi, parce qu'on se complémente vachement en fait.
Ils font la teuf un peu ou quoi?
Beaucoup.
Ils t'ont embarqué dans des bringues?
Ouais, mais j'ai eu fait des karaokés avec
Allez.
mon patron et j'ai des photos très compromettantes de lui
Que vous pouvez voir
avec
passer en même temps à l'écran.
habillé en Whoopi Goldberg, mais sauf qu'il fait 1m65 et donc c'est très drôle. Non, ils aiment beaucoup les karaokés, c'est vrai. C'est
Ok.
vrai. Et puis ils aiment bien se détendre après le travail. Mais une chose est sûre, c'est que ils sont là avant l'heure et on n'a pas l'impression qu'ils ont vu la veille. C'est incroyable.
Ah ouais. Et alors quand même, la devise pour faire une transition parfaite sur le karaoké, la soirée et la picole, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Ouais.
Donc on reste sur le domaine du sportif, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement la création d'ASICS, comment ça s'est structuré et comment ça a cheminé, comment ça a évolué? Tu parlais du basket tout à l'heure.
En fait, si on regarde l'histoire d'ASICS, c'est donc un monsieur qui était un militaire dans l'armée en pleine guerre et il a eu envie d'avoir un impact en fait sur sa société et en fait il a eu envie d'aider sa communauté et il a découvert que c'est grâce au sport en fait qu'on pourrait un petit peu élever les esprits et puis avoir une meilleure santé et une meilleure joie de vivre et prendre du plaisir. Donc ça a vraiment été son moteur. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et ensuite, donc la marque est née en 1949, hein, il me semble. La
Ok.
première chaussure de basket en 1950, il faudra quand même vérifier, hein, mais je crois
On
que
te
c'est
fait
ça.
confiance amplement.
Et il avait pour désir de créer de l'engouement autour du sport et de préserver l'intégrité physique du pratiquant. Et
D'accord.
ça, c'est resté le mode opératoire d'ASICS dans tout ce qu'ils font, quoi.
Ok.
C'est vraiment d'apporter des choses, des produits, des valeurs qui vont offrir du bien-être aux gens. Et c'est pas du blabla marketing, pour le coup, c'est pas trop mon truc. Et c'est vraiment ce que moi je ressens dans chaque chose qu'on fait, dans les projets qu'on met en place. Quand on construit une maison ASICS comme ici, c'est les messages qu'on essaie de faire passer en permanence. Et aussi dans la partie détection et signature de joueurs. On va apprendre des joueurs qui ont une tête bien faite, qui sont des joueurs sains. Voilà. On parlait de Gaël, mon fils, tout à l'heure. Gaël, il ne boit pas d'alcool.
Ouais.
Il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Il déteste ça. Ok, c'est pas un gars qui va manger tous les jours et encore. Depuis 10 ans, il mange autrement. Mais c'est un athlète de dingue. C'est un mec qui, je ne sais pas, au 100 mètres, en combien il court, mais c'est un athlète fou. Et ça, voilà, c'est ce qui compte pour nous. C'est d'arriver à dire qu'est-ce qu'on va apporter pour qu'il court plus vite, pour que le joueur de tennis de club prenne du plaisir et kiffe exercer dans nos chaussures, quoi.
Ok, bon, Novak est aussi un athlète de dingue, mais on reste un média neutre. Novak, on l'a déjà vu faire la bringue, Marina, donc bon.
Mais je pense que la vraie cause, c'est partie des plaisirs de la vie
Bien
et puis
sûr.
les Japonais, ils se détendent aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai. T'as raison
Ils aiment
là-dessus.
le saké et
Ah,
le
très bien.
whisky.
Magnifique. J'ai envie de parler de Corentin Moutet aussi, mais avant, une ambassadrice peut-être. À
Ouais.
qui tu penses en priorité, qui a une histoire très très intéressante à relayer? En lien avec Azix.
Ah, on en a eu pas mal qui ont été top 10, top 20. Bon, la meilleure, hein, ça a été Iga, hein, signée. Elle était, je crois, 49 mondiale et on s'attendait pas aussi vite à gagner un grand chelem et qu'elle finisse top 10 en 2020. Donc, je crois que la plus belle histoire d'un point de vue de la performance, c'est avec Iga Świątek.
Oui.
Et moi, quand je l'ai détectée, je voyais une nana qui avait un espèce de grain de folie sur le terrain, qui savait faire plein de choses, mais pas trop dans l'ordre. Mais je voyais une détermination dans son regard je me suis dit, c'est là, quand ça va rentrer, ça va se mettre en place, ça va faire mal.
Ok.
Et donc, je pense que d'un point de vue performance, je dirais Iga Świątek a quand même marqué les esprits.
Pareil, un avant-après Iga sur le marché de la
Ouais,
chaussure
bah,
textile aussi.
Si elle a eu un impact, tu veux dire, sur, sur les ventes, etc.
Oui.
Alors, sur les ventes, on a observé un pic de vente, en effet, à chaque fois qu'il y a eu une victoire en Grand Chelem.
Ah oui.
On regarde ces informations-là parce que on essaie de voir si nous, on rentre dans les clous aussi par rapport au budget. Donc ça, on l'a observé. Sur le textile, c'est un business qui n'est pas simple. Mais oui, en effet, il y a eu des produits qui sortaient plus. Clairement, la perf a un impact sur le business, voilà. Elle est restée, elle a quand même marqué l'histoire aussi de la Pologne. Elle a marqué l'histoire de la WTA avec combien de victoires d'affilée, je ne sais plus, 37 ou 35, tout comme ça.
Série
folle, quoi.
Oui. Bon, elle a Alizé dominé, Cornet quoi, qui a mis fin à cette série, d'ailleurs.
Ouais,
incroyable.
Incroyable.
À Wimbledon.
Mais ouais. Ouais. Donc,
le marché polonais, du coup, a explosé grâce à IGA ou pas?
Je pense que j'ai pas les chiffres, je peux pas te dire exactement aujourd'hui, mais oui, on a été définitivement associé davantage au tennis grâce à IGA.
Et elle est comment dans le perso?
Hyper sympa, très timide, un peu introverti, mais assez réservé, mais très gentil et très très simple. Voilà, c'était un partenariat sympa.
Le fait que ce soit une championne. Qui forcément a une visibilité incroyable, mais à côté une personnalité un petit peu timide, effacée, tout ça. Est-ce que ça donne envie de rester avec la championne quoi qu'il arrive, ou la marque ne peut pas faire autrement que de se poser la question et peser le pour ou le contre? Comment ça marche?
Mais je pense qu'après, si la marque a la possibilité d'avoir des personnes à côté d'IGA qui ont peut-être une personnalité un peu plus lumineuse et solaire, je pense à Belinda Bencic qu'on vient de signer, c'est intéressant. Si on arrive à avoir à côté l'aspect pure performance et les trophées et les titres, et en même temps, on a aussi quelqu'un, on prend bien
sûr. Tu disais tout à l'heure, les contrats dépendent de plein de choses, les bonus en font partie.
Ouais.
Une IGA ou un Novak qui s'envoie des grands chelems à tour de bras, est-ce que parfois la marque se serre un peu des fesses en se disant comment on va faire?
Alors,
pour rassurer les bonus.
Ouais, je pense que ouais, je pense ça que arrive. Les marques se posent la question. Nous, on l'a pas fait comme ça. Déjà, Novak, on savait qu'il pouvait en faire péter plein. Donc en fait, on l'a prévu.
On a la trésor, les gars. C'est
ouais,
bon.
On l'a prévu.
Okay.
Mais IGA, non, on a été surpris et on est tombé sur une année où il y avait eu le Covid.
Oui.
Et quand elle gagne Roland, donc on a, il y a l'argent qui est resté en fait. Donc on a pu payer ses bonus.
Okay.
Et comme elle a gagné une fois, on s'est dit bon, on va les prévoir les prochains. Donc le Covid nous a un petit peu aidé parce que il y a eu moins de performances, moins de joueurs sur ils étaient en confinés, donc on a eu la chance quelque part entre guillemets de pouvoir payer son bonus à ce moment-là, mais on l'avait pas prévu.
Est-ce qu'il y a d'autres ambassadrices historiques qui méritent d'être reprécisées? C'était lesquelles, juste
alors, l'époque des Correggia? On a eu pas mal. Alors, chez les filles, à ce moment-là, on n'en avait pas. On a passé deux très belles années. 2016, où on avait Goffin et Gaël, mon fils, dans le top 10.
Oui.
Et en 2017, on avait deux top 10 chez les filles. Johanna Konta, une Anglaise, qui a été quatrième mondiale. Coco Van de Veeg, une Américaine, qui est top 10. Et on avait Julia Gorgas, Timea Bajnicki. Et toutes ces nanas-là, elles étaient dans le top 10. 10-20, et ça nous a fait beaucoup de bien. On avait beaucoup de monde en seconde semaine de Grand Chelem.
C'est bon ça.
Et voilà. En fait, je pense qu'on était peut-être le quatrième ou cinquième budget à ce moment-là parmi tous les équipementiers, et on avait quand même, on optimisait pas mal nos contrats, quoi, du coup.
Justine, non, jamais chez vous?
Non, jamais.
Ok.
Adidas, je pense.
Ouais.
Je pense à des joueurs de tennis comme ça qui ont un peu. Une Française qui a quand même battu Serena Williams. Et c'est là, je pense, que les Japonais étaient venus.
Virginie
Razzano, en 2012, bat Serena, sur le Châtrier. Et là, à ce moment-là, il y avait patron du Japon. Et j'ai pas mal de chance parce qu'ils sont là, à ce moment-là.
Ouais.
Et
l'émotion,
hein?
Ils viennent jamais.
C'est qu'ils peuvent pas être partout. Donc, ils viennent quand ils peuvent. Mais à ce moment-là, l'émotion est dingue parce qu'on vit un match de fou. Et en fait, il y avait tout le stade en feu.
Ouais.
Et ils ont eu la chair de poule et ils se sont dit non, mais faut qu'on y aille au tennis, là, faut qu'on investisse.
Allez, Virginie!
Virginie, elle nous a fait du bien.
Si tu nous écoutes, je t'embrasse parce que tu m'as mis les larmes aux yeux ce jour-là. Je suis arrivé une demi-heure en retard à l'entraînement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce match était extraordinaire. Quel bonheur. Le petit crochet par le running, est-ce que c'est votre marché numéro 1 chez ASICS? Ouais.
Oui, c'est le marché leader chez nous. Aujourd'hui, c'est un running et deux tennis, clairement.
D'accord.
Après, on est aussi très présent en indoor. Hein. Ouais. On a des parts de marché importantes, notamment dans le Big Five et dans les pays scandinaves. Donc, mais on va dire que les deux catégories qui sont les catégories, on va dire fer de lance, porte-drapeau de la marque, c'est le running et le tennis.
Et comment ça marche? Chaque sport slash service est autonome les uns avec les autres. Par exemple, le running a son budget sponsoring grâce à ce qu'il génère, et pareil par le tennis et pareil pour les autres sports. Ou le running fonctionne comme une sorte de vache à lait, on va dire, qui va dire, allez, on peut s'enflammer parce que ça déchire. Quoi.
J'aimerais bien. Mais... Non, en fait, on a un budget sport marketing global.
D'accord.
Mais il y a un pourcentage qui est alloué aux catégories qui sont les plus puissantes en termes de vente. Donc forcément, le running a plus de budget que le tennis parce qu'on vend plus de chaussures de running dans le monde. Donc on regarde les ventes et à partir des ventes, on définit un ratio qui va être alloué au budget du sport marketing. Et marketing, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a plusieurs façons de parler d'un produit. Si on parle, tu utilisais le lancement de la courte FF3, la courte FF Novak, bah il va y avoir une partie communication marketing pure avec la fabrication de visuels, des différentes pubs à travers toutes les chaînes, des différents messages qui vont être vraiment ciblés sur la chaussure.
Ouais.
Ok, la fonctionnalité de la chaussure. Et puis on va aussi après avoir le budget sport marketing parce qu'il nous faut des ambassadeurs pour raconter les histoires.
Oui.
Donc nous, on utilise les deux leviers en fait pour faire passer nos messages. Mais tu peux avoir des équipementiers qui vont se concentrer peut-être beaucoup plus sur la partie ambassadeur de marque et moins sur l'aspect pub, comme ou l'inverse.
D'accord.
Nous, on essaie d'avoir d'équilibrer un petit peu tout ça. On pense encore que je travaille dans ce domaine-là, que les ambassadeurs provoquent une émotion qui fait que les gens vont avoir envie d'aller chercher leurs produits.
Ouais, les valeurs aussi de plus en plus.
Ouais, bien sûr.
Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui les valeurs de la marque?
Je pense que c'est le fair play, le courage, le respect, le bien-être, l'esprit, le fait de progresser en permanence. On appelle ça Kaizen, Continuous Improvement, on dit, et on le fait, on le met en pratique avec nos chaussures. On essaie toujours d'avoir un modèle qui est supérieur au précédent.
D'accord. Le sponsoring, généralement, des entreprises, c'est quoi? Le budget, c'est entre 5%, 3-5%, non? Du chiffre global?
Franchement, ça peut dépendre de, ça peut être
d'une
de 3, 5, 9, 10. Je pense que c'est différent d'une boîte à l'autre.
On peut avoir une fourchette globale de ce qui est dépensé chez ASICS dans le sponsoring?
Je te disais combien? 7 chiffres pour Nova. Qu'est-ce que je vais te dire?
On est reparti sur une fourchette introuvable.
À partir de 9 chiffres? Non, je peux pas te donner le budget, mais
est-ce qu'on peut dire combien génère votre chiffre d'affaires sur le tennis, par exemple? Ou c'est trop touchy?
C'est surtout que, pour être honnête avec toi, j'ai pas les infos aujourd'hui.
Ouais. Sur le running, tu sais?
Je pense qu'en fait, en part de marché, ce que je peux te dire, c'est qu'on va parler en part de marché, sur les magasins spécialistes, ok, tennis aujourd'hui, on est numéro 1. D'accord? Sur les magasins comme Tennis World et tout ça, les magasins e-com, on est dans le top 3. Ça varie d'un semestre à l'autre, tu
D'accord.
vois, ou d'un trimestre à l'autre.
De l'actualité
en fonction
sportive.
De l'actu sportive, du produit à ce moment-là, tu vois.
Ouais.
Mais on va dire qu'on est en tennis souvent dans une position de leader.
Ok. À travers ton discours, on a plus ou moins compris que vous voulez mettre le focus sur les ambassadeurs. C'est ça la vision du coup à travers le tennis, ou il y a des choses complémentaires à ajouter?
Écoute, je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un visage qui représente un modèle. Tu vois, okay. Ici, on a derrière nous la solution Speed que porte Diane Paris. On a la résolution que porte d'ailleurs Berrettini, par exemple. Et en fait, on a la courte FF que porte Novak. Et en fait, ces trois produits, d'accord, sont des produits qui offrent qui ont une particularité différente. Et du coup, on essaie d'avoir un visage, un ambassadeur par catégorie de produits. Donc après,
ouais.
On les définit sous ce qu'on appelle les playing styles. Donc Novak a une chaussure qui va être la combinaison de des modèles qui va lui permettre de, si tu veux, à la fois trouver dynamisme et stabilité sur le court. La résolution qui va être pour des joueurs qui sont un petit peu plus sur le fond de court, ouais. Qui ont besoin de stabilité et de soutien, tu vois, de renfort comme Corentin, comme Matteo. Et après, tu as la chaussure qui est un petit peu plus légère, dynamique, et la solution Speed FF que porte maintenant Belinda Bencic. Bah, David Goffin, ouais. Des personnes qui bougent avec un petit peu plus de fluidité, on va dire, ouais, sur le terrain.
Un peu comme les marques de raquettes, finalement, qui ont un visage d'une raquette.
Complètement. Ça parle aux consos, en fait. C'est pour ça qu'on essaie de leur donner des outils qui font que, bon, bah, quand ils arrivent en magasin, ils savent où aller, quoi acheter.
Sans rentrer autant dans le détail, peut-être une anecdote avec Matteo Berrettini, Corentin Moutet, Belinda Bencic. T'as ça en magasin?
C'est chaud, hein?
Je suis bouillant, Marina.
Écoute, avec Corentin, j'adore tellement le mec. J'ai un vrai coup de cœur pour ce joueur.
Oui.
Je le connais depuis longtemps. J'adore son côté artistique. Moi, j'écoute ce qu'il fait en musique. Je l'aime entendre jouer au piano. J'aime beaucoup ce garçon qui a une force incroyable, une sensibilité aussi que j'aime. Et je pense qu'on dit souvent, mais attends, Azik, c'est hyper japonais, rigoureux, structuré, carré. Le mec, il pète des raquettes. Pourquoi est-ce que... Mais moi, je trouve que, justement, par rapport à son esprit, on peut aider Corentin à se sentir mieux, à être plus soutenu, parce qu'en fait, c'est un garçon qui a envie d'être accompagné, surtout.
D'accord. Bon match avec Petar, tu penses?
Comment?
Bon match avec Petar Popovic, tu penses, nouveau coach?
Moi, j'aime bien aussi le coach, oui, je trouve. Mais après, il a eu un début d'année difficile, on va voir.
Ouais, le poignet, c'est tendu, ouais.
Après, par rapport à, tu m'as dit,
Berrettini, Belinda.
Berrettini, c'est un...
Le beau gosse du circuit.
C'est vrai que c'est un amour de gars aussi, mais encore une fois, c'est pas le hasard. On les choisit comme ça. Berrettini, c'est joueur, tu l'as en shooting photo, il reste 5 heures, 6 heures, tu lui dis 10 000 trucs, et ok, d'accord, ok, tu veux que je me mette allongé là, ici, on fait une photo rigolote.
Hyper cool.
Il est vraiment sympa.
Ouais.
On l'aime beaucoup et Belinda nous a ouvert les portes de sa maison il n'y a pas longtemps parce qu'elle c'est une nouvelle ambassadrice à Bratislava. Elle nous a accueillis comme si on était chez nous.
D'accord.
Et elle nous a montré toutes ses fringues Nike. Elle a dit bon ben là, allez, ciao Nike.
Incroyable.
Et là, elle a commencé à ranger ses petites affaires à Zix. C'est hyper clean.
Ah ouais.
Je t'invite à la suivre sur les réseaux parce qu'elle communique bien comme il faut. Et, ouais. Et là, elle nous a envoyé des photos et même au groupe WhatsApp. Regardez, ça y est. Et on voit toutes ses petites chaussures, différents coloris.
Très bon ça.
Et donc, on a hâte de l'avoir porté nos tenues pour la première fois à Roland.
Ok. Bon, évidemment, la question qui me... Avant de terminer, hein, je sais que tu as un dîner que tu as envie de tracer, mais tu es une marque, tu es représentante en tout cas d'une marque. Évidemment, tu nous donnes tous les bons cas de figure. Quels sont ceux qui vous font péter des câbles? Sans donner forcément des noms, mais...
Des marques?
Non,
de joueurs,
d'ambassadeurs ou des situations. Parce que là, à t'écouter, ils sont tous gentils, tous adorables, tous y prennent 4 heures pour faire des shootings. Quel est le pire cas de figure auquel vous ayez eu affaire? Sans donner des noms, évidemment.
Mais non, mais moi, je peux te dire des noms, je vais t'en raconter un autre. Gaël, il arrivait toujours en retard, hein, shooting.
Okay.
Ah, il nous a fait péter des plombs, c'est-à-dire ça coûte hyper cher, un shooting.
Ouais. Les équipes,
L'agence, la production, c'est du lourd, quoi. Et Gaël, il arrivait des fois 2 heures en retard. Ou alors, la première pub télé qu'on fait avec Gaël... C'est la première pub télé d'Azik dans le tennis. On la tourne à Amsterdam dans un hangar et il y avait des gars qui lui tiraient des balles dessus. Il devait les renvoyer, mais pas sur les mecs.
Ouais.
Il s'amusait à les dégommer, en fait.
C'est énorme.
Oui, et du coup, on était là, mon Dieu, et on n'a plus personne pour envoyer des balles. Ils en ont tous pris une.
Ah, il les touchait vraiment, en plus. Il est à droite, ce con.
Si tu veux, non, franchement, c'est un métier hyper fun. Et on essaie de choisir nos ambassadeurs pour pas trop galérer, quand même.
Ouais.
Donc, c'est pas que je veux dire que des choses positives sur eux. Mais c'est que nous, on essaie de pas signer des joueurs qui vont nous rendre fous.
Vous menez la vie dure. Ouais. J'ai bien compris. Alors, je termine toutes mes interviews avec des questions de fin, un peu plus personnelles sur toi. Marina, ton livre préféré, est-ce que tu en as un?
Ouais, mon livre préféré, je pense Les Accords Toltec.
D'accord. En une phrase, pourquoi?
Parce que c'est le premier
c'est
livre.
C'est 4 ou 5? 4
accords?
C'est 4.
Je crois que c'est 4, hein? 5?
Ouais.
4 accords toltèques. En fait, c'est le livre, c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, j'aime bien ça.
D'accord.
J'aime bien les livres de développement perso.
Ok. Le film que tu pourrais revoir 800 fois encore s'il le fallait. Un seul.
ouais. Jerry Maguire, Tom Cruise,
okay.
L'agent passionné de sport, ça m'a un petit peu inspiré.
Ok. Le concert le plus ouf de ta vie.
U2.
C'était où?
Stade de France, pour okay. mes 30 ans, et c'est les filles que j'entraînais à l'INSEP qui m'ont offert.
Ah, beau geste,
ouais, c'est qui? Carrément. Laetitia Sarrazin, Clotilde Bernardi, c'était les, voilà, les filles
trop
de l'époque.
Trop cool. Je sais que t'es maman, mais la réponse « mes enfants ne comptent pas », l'expérience la plus folle de ta vie, la plus incroyable.
Ah, c'est une bonne question.
Un voyage, une rencontre, mon mari.
Non, attends, je pense pas trop, c'était pas du tout là-dessus. Je pense que, allez, partir à 15 ans, m'entraîner chez Nick Bollettieri.
Waouh, énorme, gros pari.
Ça, c'était quelque chose.
Raconte-nous, Nick, en une minute, ou ton aventure là-bas.
Bah, en fait, j'avais fait une interview pour Zone Interdite à l'époque.
Ok.
Et... bah en fait, c'était un peu l'armée, si tu veux. J'avais dit ça à 15 ans et je l'ai redit à 43,
toujours.
Ouais, c'était hyper rigide. Je me souviens, moi, j'avais tendance, quand j'étais jeune, un peu à lâcher les raquettes. Des fois, ça volait un peu. Et une fois,
je l'ai lâché, pardon.
Une fois, Nick m'a vu et je peux te dire que j'ai passé la nuit.
T'as étoyé sa bagnole ou pas?
Bah ouais, plein de fois. Mais
ah surtout, ouais.
Ouais, parce que j'avais pas le droit de manger du chewing-gum et j'adorais ça. Donc chaque fois, je nettoyais les voitures des coachs parce que j'avais du chewing-gum dans la bouche.
Okay.
Et aussi, quand je balance ma raquette, Nick me voit à ce moment-là et j'ai vu qu'il me voit. Et là, lui, il m'a dit, tu sors du terrain, tu vas passer la nuit à ramasser les poubelles dans l'académie. Et j'étais avec un garde parce qu'il y a plein de snakes, il y a plein de bêtes quand même en Floride qui étaient à côté de moi et j'étais comme ça. Tu vois, ça m'a bien dressée. L'académie.
T'étais dans les meilleures à ce moment-là, à 15 ans?
J'étais dans les meilleures joueuses françaises. Et à ce moment-là, je pars sous les conseils de Yannick Noah, qui connaissait bien mon père. Et qui
incroyable.
Dit, franchement, tu sais quoi? Et y a la meilleure école du monde, elle est là-bas. Et il y avait Tomias, Kournikova, Serena, Vénus. Il y avait Marcelo Rios, il y avait Polo, il y avait Xavier Malice. Il y avait des tas de joueurs. Et j'étais en cours d'algèbre avec Tomias. Tu vois, c'était assez dingue.
Ah ouais.
Avec le recul, je me dis, j'ai vécu les années 90 là, j'ai vraiment eu de la chance.
T'as été soutenue financièrement? T'as été aidée un peu ou pas?
Non, mes parents m'ont envoyé, c'était mon père qui a financé l'école. Et après, j'ai eu des aides quand j'ai commencé à bien jouer à l'académie. En fait, on est comme dans toutes les acades un petit peu pris en main et j'avais des aides, des bourses.
Énorme.
À ce moment-là.
Beau crochet, bien fait de poser cette question, trop cool.
Ouais.
Une citation que t'aimes bien? Tu me sors celle d'Asie, que ça.
Un esprit sain dans un corps sain.
Bon, très bien. une plus perso?
Une quoi?
Une plus personnelle, peut-être?
Il y en a plein que j'aime. Ouais, comme ça, écoute, c'est frustrant parce que j'adore ça, les citations, mais.
Ça te reviendra.
Ça, ouais, j'en ai pas une spontanément que j'aime plus qu'une autre.
Une question sur la marque que je t'ai pas posée? On a fait un bon tour de piste.
Ouais,
une anecdote mythique, pareil, qu'on n'a pas retracée.
Bah, je crois qu'on a fait le tour. On est bien.
Trop bien.
Ouais.
Juste pour repréciser, parce qu'on a parlé très brièvement de Monsieur Onitsuka. Pourquoi est-ce qu'il était tant vénéré et qu'il l'est toujours? Parce que, comme on a évoqué tout à l'heure, il est décédé en quelle année?
Alors, attends, j'étais à son 100e anniversaire, mais c'était en quelle année? Je sais pas, 2016, 15, quelque chose comme ça. Je peux pas te
Donc,
dire.
Le jour du décès de Monsieur Onitsuka, c'est devenu férié. Personne ne travaille chez ASICS, c'est bien ça?
C'est ce que j'ai entendu.
Au Japon, aussi, en tout
au
cas.
Au Japon, mais toi, pas en Europe.
Toi, tu taffes. Et je crois qu'il y a un tableau de Monsieur Onitsuka à l'entrée des bureaux et tout le monde doit le saluer en arrivant. C'est pas ça?
Je n'ai pas,
t'as pas l'info?
Cette info-là, mais il y a un immense respect pour le fondateur d'ASICS.
Mais ça sort d'où parce que là, c'est presque, on le vénère quelque part.
Mais je pense qu'il a réussi son pari, vraiment, ouais. D'avoir un impact sur la société japonaise à travers le sport. Et il a réussi, et je pense que les employés sont fiers de travailler avec lui pour ça.
Trop bien.
Qu'ils sont restés très ancrés dans leurs valeurs, et c'est une vraie fierté pour eux.
Ouais.
Mais si tu veux, il y a un japonais dans la maison. Hein,
on va lui demander. Hein. Ouais, j'espère surtout qu'il y a un cadre, que je puisse lui faire un petit coucou. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus au sein de la maison. Merci de nous avoir fait découvrir tout cet univers pour la deuxième fois après l'Open d'Australie.
Ben ouais, avec grand plaisir, Max. Et, merci à l'équipe Tennis Légende d'être là. Et j'espère qu'on va avoir maintenant des beaux matchs là, pour la quinzaine de Roland.
C'est quoi un petit pari là, sur la quinzaine, un petit pari du cœur, ouais. Un joueur ou une joueuse, tu vois qui allait le plus loin?
Je sais pas, t'en as un toi, tu penses à...
Bah moi je suis pas objectif, Diane c'est ma joueuse préférée.
Diane
mais...
Diane elle a la troisième tour à défendre quand même.
Ouais. Elle a bien joué juste avant, donc oui. Bon elle est lancée, après on sait jamais trop. Berrettini n'est pas là. Gauffin il est un peu en fin de... Bon, il peut toujours nous claquer un truc mais on sait pas trop.
Moi je mise sur Novak chez les garçons, je vais rester...
Ouais forcément.
Solide. Et chez les filles, je vais te dire une joueuse qui n'est pas chez nous, mais que je trouve très forte, c'est Rybakina.
Ok.
Et elle, si la météo est comme on le voit, sympa les prochains jours, et que le temps est sec, elle peut envoyer du lourd en service, en coup droit, et ça peut débouler quoi, jusqu'en finale.
Et en étant très très objective de ton point de vue d'ex-joueuse professionnelle, tu vois Novak battre Alcaraz en 5, si ça se présente?
Je pense que... Je pense que si les deux sont dans un bon jour, ça ira sur un match en 5-7. Et à l'expérience, Novak, je le vois encore gagner. Ouais.
C'est ce qu'on va voir. Allez, merci beaucoup.
Merci, Max.
Et
merci.
À la prochaine.
À la prochaine.
Top.
Ouais, ça va.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.